Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode du podcast Les Projets du Web. Je suis Nicolas, votre hôte, comme à chaque émission, oui, hein, c'est le cas de le dire. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai le retour de Mathieu. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu ?
Bonsoir, très bien. Moi, je suis malheureusement pas là à chaque fois. J'essaye au maximum de l'être, mais ravi d'être là ce soir en tout cas, et bon, de pouvoir reprendre ma place derrière le micro.
T'as loupé juste une émission, c'est pas encore... Je crois que les auditeurs vont pas t'en vouloir, hein. C'est pas
oui,
comme si
oui,
t'étais parti
oui,
deux mois.
Mais j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça, je me trompe, ou il y a eu plus qu'une émission, non? Alors il y a peut-être eu qu'une seule émission, mais je crois qu'on a sauté un épisode
non,
ou quelque chose comme ça.
On a une semaine de retard sur l'enregistrement, voilà.
Voilà, ça
comme
doit
ça,
être
nos
ça.
Auditeurs savent tout des coulisses, on a sauté une semaine d'enregistrement. Mais on est là, nous voici de retour après cette fois-ci 3 semaines au lieu de 2. Mais
Exactement.
je vérifie, mais non, tu étais bien là à l'épisode 10, donc c'est qu'un seul épisode, je te confirme.
Bon.
Voilà, donc pour ce soir, pour vous situer un petit peu avant de commencer, on va faire une émission qui n'est pas dans la veine de celle qu'on fait habituellement. C'est quasiment similaire au niveau du format, hein, mais on a un peu plus de news, de petits projets en vrac, et pas vraiment de mise en évidence en fait. On n'a pas aujourd'hui préparé chacun une mise en évidence. Par contre, Mathieu, tu vas nous faire un petit dossier qui va parler de ton aventure, j'allais dire en tant que programmeur, mais je ne suis pas sûr que c'est toi qui l'as programmé.
Si, tout à fait. Mais bon, on en parlera plus tard. Mais c'est même plus large que juste de la programmation. C'est un projet dans lequel je me lance et je pensais que c'était plutôt à propos dans les projets du web d'en parler, de parler de mes déconvenues, des différentes étapes et de ce que j'avais découvert au cours de ces quelques semaines depuis le démarrage de tout ça. Donc voilà. Ça sera un petit dossier.
C'est toi qui l'as programmé de tes petites mains, d'accord. Ben.
Ouais, j'expliquerai tout ça.
Voilà, vous le découvrirez à la fin de l'épisode. Alors, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet avec les news, j'avais envie juste de remercier deux personnes qui sont venues commenter sur le dernier épisode. Donc, tout d'abord, on a Morgan de WeBuzzIt. Donc, c'est un projet que j'ai présenté lors du dernier épisode, qui est venu faire un petit commentaire, parler un petit peu, non seulement un petit retour sur le podcast, mais également de son projet, et qui nous remercie d'avoir si bien parlé de WeBuzzIt. Hein, donc, de rien, Morgan, content que ça t'ait plu. Et j'ai Elix qui est venu parler, lui, de sa découverte du podcast, simplement. Hein. Il l'a découverte grâce à Johan de Close to Shop, dont on parle décidément. Close to Shop, on va le caser à chaque épisode. Il va y avoir au moins un mot sur Close to Shop à chaque fois. Et donc, il est venu lui parler des différents projets qu'on a abordés, de HabitRPG, de Workflowy, de Wunderlist, enfin... Voilà, donc merci à vous deux pour vos retours, ça fait toujours plaisir. Merci également aux quelques tweeters qui m'ont envoyé des projets, notamment Barberousse qui m'en envoie à chaque fois, donc il fallait que je lui fasse un petit coucou. Et merci à tous pour vos différents emails, ça fait plaisir. Hein, c'est toujours agréable d'avoir des retours, on est demandeurs. Et donc n'hésitez pas, si vous écoutez ce podcast et que vous avez envie de réagir ou qu'un des sujets dont on parle vous intéresse, mais, venez, que ce soit dans les commentaires, en nous envoyant un mail... sur Twitter, vous avez toutes les adresses qui se trouvent sur le site ou sur PodCloud, et vous aurez tout à la fin de l'émission pour nous contacter, donc n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Voilà, un petit mot peut-être avant de commencer, ou j'en
prie. Je constate juste qu'au final, les personnes réagissent plus à tes news qu'aux miennes, donc j'ai peut-être un peu de travail à faire encore.
Mais là, pour le coup, tu n'étais pas la dernière fois, donc les réactions, c'est à mes news et à celles de Morgan, c'est normal.
Exactement, mais bon, du coup, en tout cas, non, mais continuer, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des retours, quels qu'ils soient. On en est demandeur. Ouais.
Effectivement, on est ravis de ça, et ça fait toujours plaisir de se sentir écouté, simplement. On sait que les gens nous écoutent, mais bref. Bon, je ne vais pas m'embrouiller plus longtemps et je vais commencer avec une petite news. Enfin, petite, pour le coup, c'est pas si petit que ça. C'est nos amis de chez YouTube qui travaillent actuellement au lancement d'un service d'abonnement. Donc, pour le moment, YouTube, je crois que la plupart des gens le savent, j'allais dire la quasi-totalité, mais la totalité du financement vient essentiellement de la pub. Donc, toutes ces pubs que vous avez en pré-roll, comme on appelle ça, donc avant la vidéo. C'est un peu le cœur de métier de Google aussi, hein, donc c'est un peu normal. Et donc maintenant, ils réfléchissent à un autre système qui serait en fait un système d'abonnement qui vous permettrait d'éviter totalement les pubs, un peu à la manière d'un premium. Donc si je dis pas de bêtises, je ne l'ai plus dans mes notes, mais je crois que le prix serait d'environ 10$ par mois. Et ça vous permettrait en fait simplement d'avoir accès à toutes les chaînes YouTube que vous souhaitez, à toutes les vidéos, sans devoir vous farcir de la pub. Et les 10$ ben, seraient reversés évidemment aux personnes, aux youtubeurs, pardon, en fonction évidemment de leur vue et de sûrement d'un calcul un peu à la Google par rapport à la durée des vues, d'après ce que j'ai entendu, au nombre de personnes abonnées qui sont venues voir leurs vidéos. Enfin, voilà, évidemment, ça reste encore un peu obscur, hein, ce sera plus détaillé quand ce sera lancé. Maintenant, moi je trouve personnellement que c'est une bonne idée. C'est un business model qui demande à être développé et qu'un grand comme YouTube fasse le pas, je trouve ça assez intéressant. Qu'on puisse peut-être enfin un peu s'affranchir de la pub, d'autant plus qu'on sait que beaucoup de gens, qui encore à l'heure actuelle regarde de la pub. Franchement, qui récemment soit n'a pas d'adblock, soit a été au bout d'une pub sur YouTube et n'a pas cliqué à partir du moment où il pouvait cliquer sur le bouton pour la passer. je me demande. Donc, je sais pas si toi, t'es consommateur spécialement de vidéos YouTube, si tu suis des chaînes ou... Parce
que moi, oui, ça m'arrive évidemment, je pense, comme tout le monde. Après, en fait, il y a deux choses intéressantes pour moi qui se confrontent un peu. D'un point de vue business model, je pense que le freemium la viabilité du freemium n'est plus à démontrer, notamment sur le streaming de musique, donc qui peut quand même s'apparenter pas mal au streaming vidéo. Donc on se dit que ça devrait fonctionner. Après, moi, la différence, et donc tu viens d'évoquer, qui est pour moi majeure, c'est que YouTube se consomme, alors je n'ai pas les chiffres, mais quand même, en tout cas moi personnellement, majoritairement depuis un navigateur web et donc pas depuis une application spécifique. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a mon adblock qui fonctionne, ce qui rend en fait... beaucoup moins important mon envie de payer pour couper les pubs, puisque j'en suis finalement, je n'y suis confronté que quand j'utilise une appli mobile, à la différence d'une utilisation de Spotify ou autre, qui se fait systématiquement via l'appli et sans compte premium. Alors en plus de ça, il y a d'autres choses que l'on a dans le fait de payer, c'est-à-dire le fait de pouvoir écouter hors ligne, etc. Mais je pense qu'il faudrait qu'il rajoute peut-être d'autres choses dans ce... Enfin, donc c'est pas finalisé, on ne sait pas ce qu'il y aura dedans, mais d'autres choses en plus, parce que le simple fait de ne pas voir de la pub, sachant qu'on y est relativement peu confronté, je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de personnes qui passent le pas, en fait.
Effectivement, oui, peut-être dans le grand public ou dans les gens qui regardent une vidéo YouTube de manière épisodique. Après, je vois là plutôt un système... Enfin, il y a deux choses. Il y a évidemment l'idée pour YouTube de fidéliser un peu plus les gens autour de sa plateforme. Ils font déjà beaucoup de diffusion de musique, hein. Il ne faut pas croire. Par exemple, YouTube, c'est un des... J'ai plus les chiffres en tête, évidemment. Là, on est pris un peu de cours, mais des plus grosses plateformes de consommation de musique, notamment avec leur système Vivo, avec les clips officiels des artistes. Je connais énormément de gens qui, plutôt qu'un abonnement Spotify ou autre, font tourner en boucle des playlists YouTube. Donc il y a ça d'un côté, et il y a aussi l'aspect on aime une chaîne, l'aspect on veut soutenir un créateur de contenu. Enfin, moi c'est plutôt dans cette optique là que je me positionne. On a l'image souvent, ça je reviendrai peut-être à un autre moment, mais on a l'image sur YouTube du YouTuber assez basique, à la type Norman ou Cyprien, un peu humour, pourquoi on rigole. Mais un peu con parfois, j'ai envie de dire. Bref, mais il y a énormément de bons contenus sur YouTube. Il y a énormément de personnes intéressantes, comme des personnes qui font du podcast. Il y en a énormément d'intéressantes aussi. C'est un peu la même chose. Et donc, un peu à la manière de ce qu'on propose avec des Tipeee ou des Patreon ou des choses comme ça, mais YouTube a peut-être envie aussi de rapatrier ses systèmes d'abonnement chez lui et de se prendre une partie de cette rétribution qui, pour le moment, est perdue. C'est aussi simple que ça.
Dans ce cas-là, il faudrait peut-être que du coup, alors on parle encore une fois dans le vide, on ne sait pas exactement ce qu'il cache derrière ce système d'abonnement, mais et moi, ce serait totalement différent si on me présentait la chose en m'expliquant que ma somme serait reversée directement et exclusivement aux personnes que je vais consulter, ou que j'ai une somme de 10 euros que je peux allouer en fait chaque mois à un certain nombre d'éditeurs de contenu, enfin de producteurs de contenu, ça serait pour moi différent. Et quand tu parles de Patreon et autres, en l'occurrence, c'est pas supprimer de la pub, c'est pas tellement dans cette, enfin pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de, on trouve le contenu de qualité, et on veut donner une contrepartie à l'auteur de ce contenu. De ce point de vue-là, je trouverais ça effectivement intéressant. Je pense qu'ils auraient plus d'intérêt à le faire dans ce sens-là.
Mais d'un côté, oui et non, ils peuvent pas juste se permettre de dire voilà, vous voulez soutenir quelqu'un, abonnez-vous. Oui, certains fans vont le faire, mais ils se coupent toute une partie de la population qui ne va pas regarder plus loin que le bout de son nez et qui pourrait potentiellement donner une rétribution. Donc là, pour moi, c'est un compromis, c'est un peu un mélange des deux, en fait, simplement. Donc j'ai envie d'aider une personne, des créateurs de contenu YouTube, parce que je crois qu'il y en a des bons, mais je vais contribuer, faire ma donation, et par la même occasion, je gagne la possibilité de ne pas avoir de pub. Après, là où tu as raison, c'est qu'il faut voir comment ça va être distribué réellement. Est-ce que ça va être distribué? Est-ce que mes 10 euros vont être distribués, enfin mes 10 dollars, mais à mon avis, ce serait 10 euros, vont être distribués aux personnes que je suis, auxquelles je suis abonné, que je regarde? Ou est-ce que ça va être en fonction des vues générales et points barres?
Un peu là. Bon, sachant qu'on ne le saura certainement jamais. Hein. En l'occurrence, les systèmes de redistribution d'autres sites de streaming où c'est des abonnements généralistes, il y a des pistes. On suppose que les artistes sont rémunérés à l'écoute 0,01 centime, etc. Mais on ne sait pas réellement, concrètement. Tout ce qui se passe entre
ici YouTube, ouais, a quand même l'air de vouloir le dire, hein. Je t'interromps juste, mais d'après les retours, parce que j'ai écouté une émission Le Rendez-vous Tech simplement ici récemment, où Jérôme Kainborg, qui a donc une chaîne YouTube, en parlait. Il a été invité par YouTube, il a été les rencontrer, et ils lui ont parlé, ils lui ont pas donné tous les détails, mais on dit qu'il communiquerait là-dessus par la suite, parce que pour le moment il ne pouvait pas. Mais ils ont déjà donné quelques informations sur la façon dont aller gérer les rétributions. Et on sait notamment que ça va être en fonction effectivement des vues, en fonction de la durée de visionnage des vidéos. Parce qu'il faut voir si les personnes vont généralement jusqu'au bout, si c'est juste du clic pour faire une vue et puis au revoir. Il y a déjà tout un facteur qu'on connaît. Et apparemment, YouTube va un peu plus communiquer là-dessus au niveau des créatifs eux-mêmes. Donc on serait peut-être amené à le savoir. Mais non. Seul l'avenir nous le dira, ça, je sais pas, je ne suis pas non plus dans le secret des dieux.
Donc affaire à suivre. Je te propose de faire une transition vers ma news suivante, parce qu'on reste dans le même sujet, puisqu'on parlait de streaming, de business model et autres. Moi, je vais vous parler de la chute faramineuse d'un nouvel entrant sur le marché du streaming audio. Streaming audio haute qualité, donc format pour les connaisseurs FLAC ou ALAC, donc du streaming un peu l'équivalent de Qobuz pour certains qui peuvent peut-être connaître. C'est un segment un peu spécifique, ça se positionne pas exactement comme Spotify ou Deezer, mais plutôt donc comme Qobuz pour qualité CD de streaming audio et pour les audiophiles. Donc c'est un site, ouais, une plateforme qui s'appelle Tidal, qui a été lancée il y a un mois jour pour jour, le 30 mars. Vous en avez sûrement entendu parler parce que la proposition de valeur était énorme, 25 millions de titres, des parrains très prestigieux et notamment Jay-Z. Donc sur le papier, ça avait l'air quand même assez intéressant, ils avaient frappé fort. Pour venir, l'éditeur est relativement connu. Je crois qu'ils avaient déjà produit des, des applications de musique. Alors, je n'ai plus le nom, il faudrait que je le retrouve. Je vous dirai ça. Mais donc, voilà, Jay-Z qui parraine, qui fait toute une publicité autour du système. 25 millions de titres déjà présents le jour de la sortie, ça faisait rêver. Et au final, dès le lancement, ils n'ont absolument pas pu se maintenir dans le classement de l'App Store. Le truc a complètement dégringolé. À partir du 30 mars et jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans les fins fonds de l'App Store. Le CEO Andy Chen a été remplacé par une autre personne, Peter Tonstad, je crois, mais je ne sais pas s'il est mal écrit, s'il est mal pris des notes. Ça en est suivi le départ de 25 employés. Donc, je vous parle de tout ça en l'espace d'un mois.
Si je peux juste ajouter une petite chose, parce ouais. que c'est, je viens de tomber dessus à l'instant dans une recherche Google sur Tidal, il y a une news qui a été postée sur un site d'information d'ailleurs belge au passage, hein, je les salue, ah. Il y a moins d'une heure, Tidal a annoncé qu'ils allaient augmenter de 30% leurs tarifs. Donc l'offre mais... standard va passer de 9,99 à 12,99. Et l'offre en haute qualité de 19,99 à 25,99. Donc voilà, ça symbolise bien la chute.
Bon, bah alors ça s'ajoute au départ du CEO, au départ de 25 employés, au fait que Jay-Z ne peut plus sortir dans la rue sans baisser la tête, parce que apparemment j'ai vu aussi des news qui disaient ça, parce qu'il avait mis beaucoup d'espoir dessus. Et donc à ça se rajoute, alors moi j'ai les anciens tarifs qui étaient donc 9,99 et 19,99 pour la haute qualité, donc augmentation de 30% qui s'ajoute à ça. Les raisons, bah, on sait que déjà la concurrence est quand même relativement forte. Deezer, Spotify et notamment Qobuz, parce que je pense que si on doit trouver un concurrent direct à Tidal, c'est quand même Qobuz. Je pense que c'est très délicat. Je sais pas toi si tu utilises un service de streaming, mais je pense que c'est quand même très très délicat d'arriver à convertir des utilisateurs déjà sur une plateforme pour venir vers la leur. À la limite, des utilisateurs n'utilisant pas encore de plateforme de streaming, c'est éventuellement possible de les convertir. Mais moi, je me verrais difficilement changer de plateforme parce qu'évidemment, il n'existe pas ou très peu de solutions qui permettent de transférer automatiquement toute sa bibliothèque, et c'est quand même des habitudes, c'est tout un écosystème qu'on construit autour de sa bibliothèque et de son et du soft qu'on a choisi. Donc c'est quand même une vraie difficulté. Et je rajoute une dernière chose avant de te laisser la parole, parce que ça m'intéresse aussi de savoir ton avis là-dessus, c'est qu'il n'existait pas au lancement d'app pour macOS et pour Windows. Alors ça a peut-être évolué, j'ai pas trouvé, donc apparemment c'est toujours pas le cas, mais c'est quand même une sacrée limitation, parce que je pense que aujourd'hui ils le font tous, consommer hors ligne du contenu, c'est quand même essentiel, même sur son ordinateur, et donc le manque d'applications et le fait de passer uniquement par l'interface web, c'est quand même une vraie problématique pour moi. Donc ça, ils auraient peut-être pu faire l'effort avant de lancer vu qu'à mon avis, ils ont mis pas mal de sous dedans, ils auraient pu voilà, concrétiser au moins une application Windows, par exemple.
Mais non, je suis totalement d'accord avec toi, évidemment. Pour répondre à ta question, moi, j'utilise Spotify et YouTube, hein, bien évidemment. Mm-hmm. Et donc, effectivement, bah, YouTube, voilà, une question de facilité, d'habitude, quand tu cherches un truc. Sur Tidal, t'étais loin d'avoir tout, et sur YouTube, t'avais le contenu de Tidal plus d'autres choses. Et Spotify, bah, l'écosystème, et puis les amis, simplement, le nombre de personnes qui sont sur Spotify, que je suis, et dont j'écoute les playlists, dont j'écoute les recommandations parfois, avec qui j'échange, c'est assez énorme. Sur Tidal, bah, y a personne. C'est aussi simple que ça, j'ai trouvé personne. Donc bon, ils ont juste voulu essayer de lancer un truc avec l'effet star, hein, en montrant que Jay-Z, Beyoncé, Daft Punk, Madonna, tout ça venaient signer en même temps, venaient montrer un peu, faire un peu le show, et puis voilà, ça a buzzé 2-3 jours, et puis on s'est rendu compte que,
ouais.
que ça en valait moyen la peine. Mais... Je sais même pas quel est le contenu, à vrai dire, j'ai même pas poussé le vice à essayer, je dois t'avouer.
Mais bon après le contenu, mais en soi, en plus, c'est... le contenu, bon, bah, à partir du moment où tu mets en avant 25 millions de titres, tu as grosso modo tout ce qui est d'actualité et tu peux tout à fait t'en sortir. Mais pour moi, vraiment, je pense que c'est aujourd'hui quasi impossible. Alors, je mets quand même un petit bémol sur ce que je dis parce que je pense que Apple va forcément me faire mentir le jour où ils lanceront leur service avec.
Mais Apple c'est différent, Apple c'est différent, c'est ça le
Voilà.
truc. Là ici c'est un chanteur, un producteur qui s'est dit, oh il y a une manne financière et j'en poche pratiquement pas un bal dessus, parce que c'est pas avec Spotify, YouTube à mon avis qui
Certainement.
gagne sa vie le monsieur. Et donc il s'est dit, ah tiens, pourquoi ce serait pas moi? C'est un peu la réflexion que se font les anciens du disque en fait, des gens qui n'ont pas su évoluer avec Internet, qui comprennent pas exactement ce que c'est. Et qui se disent, voilà, les gens écoutent beaucoup en streaming, si moi je lance ça et je vais venir quelques potes et on fait un peu le buzz autour de ça va marcher, point barre. Les gens voudront de moi, les gens voudront de. Et réfléchis pas plus loin. Et donc ils pensent pas que, voilà, il y a une majorité, il y a beaucoup, enfin pas une majorité, mais beaucoup de gens qui sont déjà intégrés dans un écosystème, aussi peut-être même une majorité d'ailleurs, qui a beaucoup de contenu déjà ailleurs, que pour pouvoir réussir, il faut simplement se démarquer. Et qu'en soi, se démarquer, il propose pas grand-chose pour se démarquer des autres. Il pense pas, voilà, tout bêtement, comme tu l'as dit, il pense pas qu'il y a des gens qui écoutent sur PC. Moi, Spotify, mon principal usage, c'est PC. J'écoute quasiment rien en mobile via Spotify. En mobilité, j'écoute du podcast. Donc, la seule musique que j'écoute, c'est quand je travaille sur le PC avec Spotify. Ben, Latidal, je ne pouvais pas le faire. Donc, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui fait que. C'est pas un projet pensé pour le web, c'est un projet pour récupérer désespérément une manne financière en se disant voilà, tous les jeunes écoutent en streaming, donc moi aussi je vais me mettre au streaming. Voilà. On n'a pas réfléchi plus loin.
Donc on a,
C'est dommage. Tandis qu'Apple, oui, voilà,
voilà.
c'est là que je voulais revenir, excuse-moi. Apple, par contre, c'est le contraire, justement, le jour où ils viendront, ils penseront d'abord à la façon de l'utiliser. C'est ça qui fait la force d'Apple. Ils vont se dire comment il faut qu'on présente les choses pour que les gens veulent l'utiliser et que ce soit pratique et intéressant pour les gens de
Ouais.
l'utiliser.
Plus
Mais c'est deux approches complètement différentes.
l'omniprésence d'iTunes et la bonne position de Beats. Qui font quand même deux arguments de poids qui font que et puis la force d'Apple de concrétiser systématiquement leur coup sur le marché. Je pense que ça fait trois choses qui font que de toute manière on sait qu'ils y arriveront. Mais un autre acteur venant sur ce marché, sauf à trouver un peu comme Qobuz une spécificité ou un élément différenciant, je pense qu'aujourd'hui le marché est quand même relativement saturé.
Je pense aussi, effectivement. Enfin bref, voilà, paie à ton âme, Tidal, parce que je crois que l'arbre est
Là, on peut
lire.
dire.
Je crois que ça sert plus à rien de. Je crois que la
Il
bête est
faudrait
morte.
rajouter en post-prod une petite musique d'enterrement.
Oui, un petit.
C'est ça.
Effectivement. Bon, allez, un peu de positivisme. Je te propose d'embrayer sur une news, à mon sens, un peu plus positive.
Tout à
Enfin,
fait.
d'un acteur en tout cas qui réussit sur le web, pour le
Ouais.
coup, c'est Open Classroom. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le. Enfin, j'ai dit le nouveau nom, ça fait quand même quelques années maintenant, mais c'est l'ancien site du zéro. Parce que le nom site du zéro est quand même resté relativement célèbre. Donc, c'est un site bah, qui propose énormément de formations en ligne. Et depuis qu'ils ont migré de site du zéro à Open Classroom, je peux te dire que j'y étais récemment pour apprendre un petit peu, me former à 2-3 choses. Ça a vachement évolué.
Ouais,
Peut-être
j'ai.
que je fasse un retour là-dessus un jour, mais c'est impressionnant.
Étrangement, j'y vais presque moins. Je suis d'accord que factuellement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est beaucoup plus pro, beaucoup plus. Tout est mieux, mais bizarrement. Alors, j'avais pas le même âge non plus. J'étais dans la découverte de l'informatique et j'ai fait mes premières lignes de code avec eux sur le site du zéro. Mais il y avait un côté plus proche, moins froid. Le site du zéro et Open Classroom, moi, j'ai plus de distance par rapport à eux parce que j'ai le sentiment déjà que c'est devenu un site effectivement beaucoup plus important. Il n'y a plus le niveau de discours de proximité qu'il y avait avant, ou moins en tout cas. Et voilà, j'ai un petit détachement par rapport à tout ça. Et finalement, en fait, ils rentrent parce qu'en plus, ce n'est pas les seuls acteurs hein, MOOC, je ne sais pas comment on dit, MOOC. Il y en a d'autres.
Je crois qu'on dit
Ouais,
MOOC.
MOOC. Et bon, je un peu nostalgique, je pense, de l'époque site du zéro avec Mathieu
Mais
Nebra
je peux
qui faisait
comprendre,
ses
j'ai.
tutos.
J'ai un bouquin, programmé en C à la maison, du temps où je faisais aussi mes cours d'informatique. Et c'est vrai que le ton est radicalement différent, quoi. C'est plus la petite sympathie qu'on avait avant. Là, c'est des professionnels qui viennent parler à presque des professionnels, quoi. Moi, j'ai fait ici un cours sur le community management. C'était en vidéo. Ben, c'est une agence spécialisée dans le domaine dont le patron vient parler. Dans des cours de vidéo et qui incite effectivement à aller sur le premium et qui fait. C'est radicalement différent. Bref, mais c'est vraiment bien
Oui,
pensé, très
complètement.
honnêtement. C'est selon moi l'évolution professionnelle
Évidemment.
logique. Et ça te met dans un cursus. À partir du moment où tu t'inscris dans différents cours et tu décides de suivre un cursus, un parcours comme ils appellent ça, tu es vraiment. Je vais pas dire à l'école, j'exagère peut-être un peu, mais quasiment, quoi. Tu dois rendre des travaux, tu dois. Échanger avec des profs, c'est vraiment vraiment bien poussé. Bref, pour la news, voilà, oui, je reprends, je recentre. Donc ici c'est l'annonce de la part de votre ami, parce que moi je suis belge, hein, tout le monde doit commencer à savoir, votre président François Hollande, parce que je dis ami, mais
Oui,
bon,
il
voilà.
faut le dire vite, hein.
C'est ça. Donc, qui a annoncé que les chômeurs, en fait, en France, enfin, les demandeurs d'emploi, auraient un accès illimité et gratuit à la version premium et aux cours de Open Classroom. Donc, je trouvais cette news assez intéressante parce que je suis moi-même maintenant dans une posture quasiment de demandeur d'emploi. Voilà, comme ça va être toute ma vie. Enfin, je suis en période de préavis pour être précis, donc. Je ne pense peut-être pas arriver jusqu'au stade demandeur d'emploi, mais qui sait? Et c'est vrai que c'est le moment où tu te dis, bah, il faut que je me forme, il faut que j'apprenne des choses, que j'évolue un peu dans mes connaissances pour pouvoir postuler le travail, trouver autre chose, me réorienter peut-être professionnellement. Et c'est dans ce genre de moment que tu as besoin d'un accès à ce genre de choses et où tu te dis, mais au final, l'argent, je ne l'ai peut-être plus à ce moment-là, je ne l'ai plus autant que quand j'étais travailleur. Et donc effectivement, pour moi, c'est une bonne initiative qui peut pousser, qui peut amener à découvrir de nouvelles choses, peut-être se réorienter, apprendre un peu plus, voire même pousser les demandeurs d'emploi à concrétiser un peu leurs rêves et à s'orienter dans une branche qu'ils n'auraient jamais imaginé aborder avant. Donc voilà, rien pour le moment de vraiment concret. Hein, sur le blog d'Open Classroom, il parle de septembre pour le lancement de la. Du partenariat, on peut dire ça comme ça, où il y aura un système de demande assez élaboré, mais voilà, pour le moment, les gens demandent déjà dans les commentaires, ils n'ont rien à proposer, ils peuvent pas encore s'avancer sur comment ça va se dérouler, comment devront être faites les demandes, à qui, etc. Mais ça arrive normalement au mois de septembre. Donc si vous êtes demandeur d'emploi et que vous désirez vous former ou vous orienter vers un nouveau domaine, ben, voilà, vous savez maintenant l'adresse où aller.
Bah, c'est une news intéressante. Ça m'étonne parce que ça va pas forcément dans le sens des autres prises de décision de notre gouvernement, mais ça m'étonne agréablement. Donc, super, super, bonne initiative. J'espère que ça continuera à s'étendre sur ce type de choses. Alors, on va enchaîner avec le rachat de Foursquare par Yahoo.
Ah, c'est encore à
Donc,
moi en fait. Je m'étais complètement emporté dans mon discours, j'ai plus fait attention à la
oui,
suite.
c'est pour ça.
Donc.
J'ai été étonné aussi, hein, à vrai dire, hein, de cette fin de news. On a été tous les deux pris de court. Non, non, je pense qu'on va enchaîner avec le rachat de Foursquare par Yahoo, le potentiel rachat de Foursquare par Yahoo.
Effectivement, oui. C'est encore à moi, tu as raison. Donc, c'est une. Enfin, au moment en tout cas où j'ai pris note de la news, parce que je t'avoue que j'ai pas suivi ici sur les 2 derniers jours, donc on enregistre au 30 avril, donc excusez-moi si le 29 ou 30 il y a eu une mise à jour, hein. Mais en tout cas à la date où j'ai pris mes notes, Yahoo envisageait, semble-t-il, de racheter Foursquare. Donc Foursquare, ben, je pense que vous le savez tous, hein, mais c'est une application qui permet de faire des check-in. Donc simplement d'indiquer quand on se trouve dans un endroit, ben voilà. Où, voilà, je me trouve dans tel endroit. Donc, au départ de Foursquare, ils avaient mis l'accent sur la gamification. Donc, le côté marque le plus possible qu'on est un endroit pour en devenir le maire. Et la personne qui fait le plus de check-in à l'endroit en question devient maire de l'endroit. Donc c'est un jeu, je crois, qu'on s'est tous un peu prêté. On a tous essayé de faire, ne fût-ce que sur son lieu de travail. J'ai réussi à devenir maire. Je devenais maire tous les jours, en fait, au matin en arrivant. Et puis après, je me faisais piquer la place chaque fois. C'était, voilà, on s'amusait. Et je crois. Voilà, Foursquare est un peu tombé en désuétude par la suite, a un peu raté son virage, les gens sont un peu lassés de cette idée, sont un peu... Ils ont essayé de lancer par la suite un système un peu à la... comment ça s'appelle de recommandation, enfin, je tombe plus sur le nom de l'autre système, de recommandation d'endroit. Donc, par exemple, si on fait un check-in dans un restaurant, on peut indiquer ce qu'on en a pensé, le recommander à ses amis, etc. Et donc un peu une application où si on cherchait dans les environs d'où on se trouve via la position GPS à un restaurant, ben on pouvait voir ce que ses amis avaient recommandé dans le coin ou ce que les gens préféraient comme restaurant des environs. Mais bon, ça restait un peu. Moi j'ai arrêté de l'utiliser tout simplement. Hein. Après un moment, j'en ai eu marre de devenir maire tous les jours et de me faire prendre la place à chaque fois. Donc j'ai un peu laissé tomber. J'avoue que j'ai pas trop suivi ce que devenait Foursquare par la suite. J'ai vu qu'ils faisaient ce système de recommandation, mais je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'utilisateurs qui soient revenus. Hein. Ça n'a pas refait beaucoup parler. Et donc bah, ici, Yahoo, qui est dans sa phase de conquête depuis que Marissa Mayer a repris les rênes, hein, ils essaient de racheter à tour de bras en tout cas, se montraient intéressés par l'application. Ça pouvait, à mon avis, ajouter une corde à leur arc qu'ils n'avaient pas encore. Et le prix de rachat tournait aux alentours des 900 millions de dollars. Donc, quand même une belle somme hein, pour une application dont moi je parle comme une application tombée en désuétude. C'est quand même pas mal, je trouve. Donc, je ne sais pas si toi, tu es encore utilisateur, enfin, si tu as déjà été utilisateur, ni si tu es utilisateur Foursquare, ni si ce que tu penses... ce que tu penses de ce rachat, si c'est quelque chose qui te...
Alors, ouais, je l'ai été. Je l'ai été à la belle époque de Foursquare.
Je l'ai été. C'est ce qu'on me dit à chaque fois.
à la belle époque de Foursquare. Après, relativement vite tombé. Et après, il y a un effet domino parce que à partir du moment où ton entourage ou les gens commencent à ne plus l'utiliser, ça perd très rapidement de son intérêt. Je pense que tu voulais parler d'Yelp éventuellement pour les recommandations. Je ne sais pas si c'était ce service-là dont tu...
Ouais. C'est ça. Yelp, bon. Voilà.
Je pense que en fait, c'est peut-être le côté gamification qui a fini par agacer les gens. Et finalement, aujourd'hui, quand on utilise Google Maps ou autre et qu'on a les recommandations sur les lieux fournis par Yelp ou d'autres acteurs de ce type-là. Je pense que c'est ça la vraie utilisation. Et je pense d'ailleurs, parce que le rachat me paraît quand même relativement élevé, que si Yahoo rachète, c'est surtout pour cette partie recommandation et pour cette base de données qu'ils ont dû construire, plutôt que le côté jeu et gamification que propose Foursquare. Mais bon, c'est un avis personnel, mais je pense que c'est...
Et alors, petite précision, pendant que tu parlais, j'ai cherché, vu que je vous avais dit, je n'ai pas mis à jour sur les deux derniers jours, malheureusement, et comme par hasard, j'aurais dû le faire, car je tombe ici sur une mise à jour d'article toute récente, d'hier, qui indique que le Wall Street Journal et Recode auraient démenti l'information, après avoir un peu interrogé leurs sources respectives. Donc voilà, c'était Crunch qui avait annoncé ça à la base. Donc on met face à face de sources sérieuses. Wall Street Journal est quand même peut-être un peu plus réputé, mais...
Oui, mais peut-être moins spécialisé.
Il n'y a pas de fumée sans feu.
Ouais, exactement.
Oui, c'est ça, voilà.
Je pense que...
Mais Rico Adlet, par contre.
Oui. Bon, donc affaire à suivre, parce qu'à mon avis, ce n'est pas juste une news démentie, mais il doit se passer des choses autour de Foursquare, en tout cas, à suivre.
Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit, donc on vous tiendra informé dans les prochaines émissions, mais de toute façon, ce serait logique pour Yahoo, donc à voir.
Voilà, alors, bon. on va complètement changer d'univers. Cette fois-ci, moi, j'ai vu passer une news qui en fait m'a paru assez drôle. En fait, ça se passe au salon de l'auto de Shanghai. Ils ont présenté durant ce salon, et donc quand je dis ils, c'est BMW, et plus spécifiquement pour leur marque Mini, ils ont présenté le Mini Augmented Vision. Et j'ai trouvé ça assez drôle, assez sympa. Donc je vous recommande, parce que là on ne peut pas le faire, d'aller voir en plus de ce que je vais vous présenter. Finalement, c'est une paire de lunettes look un peu aviateur, vraiment sympa, qu'ils ont développé en partenariat avec Qualcomm. Et si on veut rapidement présenter la chose, c'est l'équivalent des Google Glass. Mais spécifiquement développé pour la conduite et pour la conduite chez Mini. Donc bon, je vous passe les spécifications techniques avec deux batteries, deux caméras, pas mal de mémoire, deux écrans HD 16/9 en plein collé sur votre rétine. Mais plutôt l'explication de à quoi ça sert et de comment ils l'ont présenté. C'est assez drôle. Donc c'est un assistant en fait de conduite, un assistant pour le conducteur. Il projette donc sur le champ de vision du conducteur l'itinéraire, donc un peu en ce qu'on a déjà hein, sur certains véhicules avec un affichage tête haute, mais donc là directement imprimé sur les yeux du conducteur ou du moins sur la lentille, avec un affichage donc qui est en surbrillance sur la route. Ça affiche aussi évidemment la vitesse à laquelle on se déplace. Et alors, ce qui est drôle, parce que ça, à la limite, on pourrait l'avoir, c'est que ça se limite pas du coup sur le pare-brise, mais absolument partout. Donc, en fait, ça vous permet de voir les angles morse comme si vous pouviez voir à travers les portes du véhicule. Et ça, c'est assez sympa. Donc, c'est évidemment compatible uniquement avec les Mini qui sont équipés des caméras qui vont bien, qui permettent d'étendre la visibilité des rétroviseurs. Donc il y a des caméras en fait qui captent la vidéo derrière les angles et quand vous passez en fait votre regard par-dessus ces éléments-là, ils deviennent transparents et vous voyez au travers. Vous voyez aussi des halos rouges pour focaliser l'attention du conducteur si il y a une voiture dans l'angle mort. Donc ça, il s'agit que d'un prototype, mais ça existe déjà et ça donne plutôt envie. Je sais pas si tu as pu voir les photos, les vidéos et autres.
Bien sûr, j'ai été voir quand tu as mis la news. Bah c'est, ce que j'ai à dire, c'est que c'est joli en tout cas. Enfin, c'est dans la veine de l'idée qu'on se fait de la Mini, et des conducteurs de Mini simplement. J'ai une connaissance qui est conducteur de Mini, qui a le. Enfin, ça fait un peu stéréotype ce que je vais dire, mais qui a le type conducteur de Mini. Et les lunettes lui iraient bien, je pense. Ça correspond vraiment au look du truc. Donc après, bah oui, c'est un prototype bien marrant, bien sympa. Peut-être pour une éventuelle étude de technologie pour d'autres voitures à l'avenir. Après, si ça reste limité au Mini, bah, ça reste quand même
Moi
très
en
niche.
soi, alors oui, bon après les lunettes et tout ça, je trouvais ça donc déjà très sympa. Mais la technologie par contre d'angle mort et je l'avais déjà vu dans un autre véhicule, mais j'ai jamais retrouvé. Du coup, en voyant cette news, j'ai essayé de rechercher, j'ai jamais retrouvé les voitures qui en fait, grâce à des caméras et donc à des, alors cette fois-ci, c'était pas sur des lunettes via des lunettes, mais directement le revêtement de la voiture qui pouvait devenir transparent et qui te permettait de voir, par exemple, pour certains 4x4, enfin, dessous la projection de ton capot. Je ne sais pas si c'est un peu compliqué à expliquer, mais donc tu ne voyais pas la courbure de ton capot et tu voyais en fait comme si c'était transparent. Donc ça te donne un champ de vision beaucoup plus important. Pareil sur les portes et les angles morts. Et donc en fait, tu voyais à 360 tout ce qui se passait. Donc évidemment, pour se garer, pour tout ça, il suffit de regarder autour de soi et en fait, on est dans un véhicule transparent de l'intérieur et complètement opaque évidemment de l'extérieur. Donc c'est assez intéressant et ça, je pense que cette technologie-là, elle est relativement sympa.
Mais ce que je dis si c'est pour j'ai pas une étude de marché, mais pour faire une étude enfin tester une innovation technologique pour après l'implémenter dans d'autres véhicules de la marque et dans tous les véhicules, ce serait d'ailleurs génial. Si ça reste bloqué juste à la Mini et que c'est un petit effet d'annonce autour de la Mini, c'est un peu dommage, quoi. Ça bride un peu les choses. Mais voilà, si il étend à tous les modèles et à toutes les gammes du constructeur, ben oui, effectivement, c'est vachement intéressant et ça vaut le coup d'œil, quoi. Donc allez voir les vidéos, allez voir les images. C'est un petit look d'ailleurs au passage un peu cyberpunk. Ça
ouais,
a l'air
tout
aux gens
à fait.
Qui aiment bien. Enfin, je trouve que c'est un style cyberpunk. On voit surtout beaucoup dans les trucs cyberpunk des pilotes un peu avec des lunettes d'aviateur comme ça un peu à l'ancienne. C'est vraiment ce style-là, un peu plus gros, un peu plus massif, mais ça
c'est
se voit
exactement
clair,
ça.
Je trouve. Donc voilà. Après, je sais pas pourquoi le gars là, dans les photos de l'article que t'as mis, il y a une photo où il les porte en dehors de la voiture, devant une affiche d'art. Je sais pas si,
c'est purement marketing et c'est une erreur à mon avis du marketing.
Ce que j'allais dire, je sais pas s'il y a d'autres possibilités que j'ai pas vues, parce que moi j'ai vu que
ah oui, non,
l'usage
eux
avec la
le
voiture.
présentent en tout cas aujourd'hui vraiment que dans ce contexte-là. Je pense que évidemment, si jamais la chose devient autre qu'un prototype, il se limiterait pas à ça, parce que techniquement, elle a. Je vais pas parler du processeur et de tout ce qu'elle a, mais elle permettrait de faire beaucoup plus. Donc, ce serait, si jamais, c'est plutôt une démo. À la limite, c'est quelque chose qu'il faudrait intégrer à Google Glass V2 si elle sort un jour.
Ouais, mais c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Avoir plus large que la Mini, ça pourrait être sympa et c'est une technologie qui peut être intéressante, effectivement. Bon, je vais terminer les news avec deux petites choses rapides. Je ne vais pas passer très longtemps dessus, mais j'avais envie de l'aborder. Première petite news, c'est une émission que j'ai appris à aimer, en fait. Je dis ça parce que j'avoue qu'à la base, quand j'ai regardé la première saison, j'ai eu un peu de mal. J'ai trouvé ça un peu laborieux. Mais bref, je trouve qu'ils se sont améliorés avec le temps. C'est l'émission Plus ou moins Geek. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de regarder.
Pas du tout.
De jeter un œil. Ok. Donc, je vais faire encore plus bref. Non, c'est une émission sur, qui était à la base prévue pour la télévision, qui, après avoir fait plusieurs chaînes, s'est vue malheureusement à chaque fois déprogrammée des nouvelles saisons. Et donc, au bout de 3 saisons, ben, ils n'avaient plus de chaîne de TV où être diffusée. Mais bon, ils avaient déjà un petit public sur YouTube, et donc ils ont décidé de prolonger l'aventure simplement grâce à YouTube. Donc encore un exemple de business model vidéo chez nos amis via Internet directement. Et je trouve pas ça con d'ailleurs, parce que ce type d'émission, essayer de faire un format TV alors qu'on est diffusé sur le web en même temps, les geeks, donc les gens principalement intéressés, vont pas aller regarder ça à la télévision, vont pas attendre une diffusion sur une chaîne un peu obscure de la TNT. Bref, ils ont décidé donc de faire du full YouTube, et à partir du 15 juin, de modifier en fait, de plus faire des émissions qui seront diffusées après un podcast sur YouTube, mais de créer carrément une chaîne YouTube, Plus ou moins Geek TV, tout simplement, qui devrait diffuser une quinzaine d'émissions différentes. Donc j'attends de voir un peu ce que ça donne. Pour la petite info, ben, Plus ou moins Geek, pour situer rapidement le contexte, c'était une émission où un présentateur avait des chroniqueurs avec lui, chacun spécialisé dans un domaine spécifique, le cinéma, un peu série Z, etc., la bande dessinée, la japanime, enfin, plein de jeux vidéo, etc. Et donc, une quinzaine d'émissions, à mon avis, il y aura sûrement des émissions thématiques sur chacun des sujets. Et avant ça, en amont, le 2 mai, ils vont lancer une campagne de crowdfunding. Ici, on enregistre le 30 avril, pour info, donc ça arrive dans quelques jours. On vous en reparlera très certainement. Pour débloquer des fonds pour pouvoir produire les émissions. Et alors, la petite chose que je trouvais quand même intéressante, je vais voir comment ce sera fait, mais le crowdfunding, en fait, ne permettra pas simplement, comme à l'habitude, de payer pour dire d'avoir X contrepartie et d'avoir du contenu, mais les gens pourront choisir de payer pour débloquer les émissions de leur choix, en fait. Je ne sais pas comment ils vont présenter ça du tout, parce qu'on a l'habitude d'un crowdfunding égale un projet général, donc ici on se dirait un crowdfunding égale plus ou moins Geek TV, mais apparemment non, le crowdfunding permettra quand on mettra l'argent de choisir dans quelle émission on met ses deniers, donc on met son argent, et en fonction de l'argent qui sera mis dans chacune, de débloquer plus une que l'autre. Donc c'est vraiment laisser au public le choix des émissions qu'il veut voir sur la chaîne.
C'est sympa ce, c'est sympa, ce modèle-là, un peu à la carte.
Je trouve ça vraiment original, et ça permet au moins de sonder encore plus les gens, parce que tu leur dis, voilà, payez pour voir plus ou moins Geek TV, si vous mettez autant, vous avez la chaîne avec X émissions. Si vous mettez plus, vous avez X émissions en plus. Mais après, tu sais pas si les gens ont envie de spécialement toutes les émissions, ou tandis que là, vraiment, de voir à la carte, mais ils pourront cibler ce dont les gens ont envie. Donc je trouve ça sympa. On en reparlera certainement, voilà, on parlera de la manière de faire, à mon avis, dans une prochaine émission. Donc voilà. Bon, toi, tu ne regardes pas pour le coup. Tu n'es pas un grand amateur, je pense, de YouTube, mais pour ceux qui regardent, comme ça, vous savez. Et alors, je vais terminer les news par un petit. Décidément, les musiques d'enterrement, ça va être la journée. Un petit RIP pour les tartinades. Donc, je ne sais pas non plus, ça, est-ce que tu connais les tartinades ?
Ça, pour le coup, je connais. On n'en avait pas parlé ? Non. Du début presque.
À mon avis, c'était dans l'ancien podcast alors, parce qu'avec moi, tu n'en as pas parlé, je pense pas.
Mais
ça dit rien en tout cas.
Oui, bon, d'accord. Non, parce que c'est pas non plus très vieux comme il a lancé ça il y a peut-être un an, ouais, en fait. Bon, je dis peut-être une grosse bêtise.
Je sais pas, en tout cas moi je ne me rappelle pas en avoir parlé, mais on vérifiera. Public, si vous savez, si dites-nous. Mais bref, ici les gens ayant participé en fait au lancement des tartinades, parce qu'ils avaient lancé ça en crowdfunding, si j'ai pas dit, ou ils avaient fait par la suite un crowdfunding, je ne sais plus, ont reçu un email annonçant que l'aventure s'arrêtait à la mi-mai. Donc ils fermeront la boutique dans quelques jours à l'heure où on vous parle, donc mi-mai, vous ne pourrez plus commander malheureusement vos tartinades. Donc pour info, Tartinade, c'est un projet lancé par Mathieu Blanco, qui a été connu un certain temps dans le monde du podcast, qui consistait en des petits sachets en fait de pâte à tartiner, de préparation
pour la poudre permettant de faire de la pâte à tartiner.
Voilà, exactement, avec différentes recettes. Hein. Ça pouvait aller du chocolat au lait, au caramel, en passant par les pralines ou les pistaches. Et donc, vous commandiez sur Internet la petite poudre qui était faite à partir d'ingrédients qui étaient vraiment faits maison, quoi. C'est pas de l'industriel. Il faisait ça lui-même, avec ses équipes. Et donc, vous receviez votre petite poudre et vous la mélangiez selon les conseils de recettes indiqués avec du lait, parfois un peu de beurre, et vous obteniez une pâte à tartiner 100% naturel et apparemment très bonne. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer, je le regrette, j'aurais peut-être dû essayer un jour, mais. Donc voilà, c'était un concept original pour le coup, je trouvais, vraiment intéressant, mais malheureusement, ça n'a semble-t-il pas pris et ils n'ont pas réussi à décoller et à garder la confiance des banquiers, avoir une clientèle assez récurrente que pour pouvoir s'en vivre, donc RIP les tartinades. C'est l'émission de la tristesse aujourd'hui. Enfin non, Tidal,
ouais,
pas
non,
triste,
c'est mais... ça. Tidal, moins de problèmes par rapport à leur mort. Là, beaucoup plus. Ouais, moi, j'aimais bien le projet. Je trouvais ça intéressant et différent. En plus de ça, je ne m'attendais pas à voir ce monsieur-là derrière ce type de projet-là, parce que je me souviens encore de We Love Mac ou quelque chose comme ça. C'était ça son podcast. Ouais, il avait entre autres.
Il y avait la revue Tech,
Mac, JT ou des choses comme ça. Donc plutôt geek. Quand on a appris qu'il se lançait dans les pâtes à tartiner, c'était quand même assez intéressant. Et vraiment, non, c'était un beau projet. C'est dommage que ça s'arrête.
Ouais, un projet encore original, malheureusement, qui se termine. Je crois que ce sera pas le dernier dont on parlera, malheureusement. Mais c'est vrai que celui-là était quand même un petit peu, comme tu dis, sortait un peu du lot. Donc j'avais envie de le voir continuer. J'ai un petit passement au cœur, même si j'ai jamais commandé, parce que j'avoue, je suis pas fan de pâte à tartiner à la base, mais j'aurais pu. Un petit passement au cœur quand même. Donc espérons pour lui qu'il puisse repartir sur autre chose, qu'on reverra bientôt sur un autre projet. Décidément, c'est encore un
bon. Je t'ai laissé beaucoup de place dans ce podcast pour en reprendre beaucoup plus à la fin, pour m'étendre sur.
À la fin, je me repose, je me mets en mute, je te laisse parler.
J'espère que ça sera une discussion quand même.
Non, je plaisante. Plus sérieusement, je fais deux petits retours très rapides sur des projets, je dis beaucoup très rapides depuis tout à l'heure. Le premier, c'est sur Kung Fury, qui est un film, un projet Kickstarter dont j'avais parlé avec Alex dans, je sais plus quelle émission, je crois que c'est la deuxième, quelque chose comme ça. C'est un projet de film complètement barré, très années 80 comme ça, donc très dans l'optique VHS avec des effets spéciaux limite un peu gerbants, qui mélangeait allègrement du kung-fu, Adolf Hitler et des dinosaures. C'était un peu le pitch du truc. Ça situe sur le niveau. Donc ce film-là avait rencontré un énorme succès sur Kickstarter. J'avais d'ailleurs backé. J'attends toujours de recevoir le DVD, hein, espérons qu'il arrive un jour, quand le film sera enfin sorti. Et donc, ils ont deux actualités, en fait. Il y en a deux grosses actualités, j'ai envie de dire. La première, ben, c'est que, ça, je pense que tout le monde l'a vu sur Internet, ils ont réussi à choper David Hasselhoff pour tourner un clip. Donc ça, c'était quand même assez énorme.
Le clip est mortel. Très, très drôle.
Franchement, c'est... Enfin, David Hasselhoff avait déjà chanté il y a quelques années d'ici, je sais plus le titre de son truc, mais c'était aussi très kitsch où il dansait sur une moto, attends, ou Get On Feeling, voilà, je l'ai ici. Donc il dansait debout sur une moto avec un fond vert dégueulasse, où on voyait le câble auquel il était pendu, enfin, ça ressemblait vraiment à rien. Et là, ce que j'adore, c'est qu'ils ont non seulement poussé le vice du syndrome de leur film, donc très typé années 80 et vraiment effet spéciaux gerbants, avec le côté David Hasselhoff qui se met en scène de manière complètement ridicule. Et donc ça s'appelle le True Survivor. Et je mettrai dans les notes de l'émission, mais je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, jeter un coup d'œil. Ça vaut vraiment le coup, franchement.
C'est vraiment très bon, ouais. Il y a plein de références un peu geek, ou en tout cas plein de stéréotypes très drôles, avec des attaques de zombies, des dinosaures chevauchés par... Enfin, toutes les références aux films un peu nanars, geek et autres. C'est vraiment très drôle, très très drôle.
Ouais. Et surtout, ça promet pour ceux comme moi qui ont backé Kung Fury, c'est juste du délire, ça promet un film à la hauteur des attentes, en fait. Je pense que je rigolerai bien quand je recevrai le DVD. Et la deuxième actualité, ben, c'est que ils ont quand même réussi à être au Festival de Cannes. Ça, c'est quand même pas rien.
Ça, hein, c'est plus étonnant, déjà.
Oui, ils sont donc, ils vont concourir en fait dans la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Je pense pas, honnêtement, qu'ils vont remporter quoi que ce soit avec un film comme celui-là, mais qui sait, peut-être que les gens là-bas auront un peu d'humour. En tout cas, c'est un sacré pied de nez, un sacré pour un film qui a été créé de toutes pièces par des geeks, parce que pour être à ce point ancré dans la culture nanardesque et dans la culture geek, il faut quand même être atteint soi-même, et qui a été surtout créé par et pour Internet, crowdfundé à la base, et créé dans l'optique de faire limite plus dégueu qu'un nanar sur VHS des années 80. Tout ça réuni, être sélectionné dans la quinzaine des réalisateurs à Cannes, c'est quand même pas rien, quoi. Je suis quand même impressionné pour le coup. Je sais pas trop comment ça a pu se faire, mais... Voilà, impressionnant. Je vous tiendrai évidemment au courant s'il gagne quoi que ce soit, bien que j'en doute. Hein. Je pense pas que ce soit le type de film qui soit publicité là-bas, mais qui sait, peut-être que ça ferait un coup de pub assez original, que ça ferait quelque chose d'un peu qui sortirait pour une fois du lot du Festival de Cannes. À voir. Voilà, fini pour Kung Fury, pardon. Deuxième petit retour. Assez rapide, et je vois que dans le conducteur je l'ai mal orthographié, c'est Space Origin, un jeu dont on a déjà parlé plusieurs fois dans d'anciens épisodes, pour vous annoncer que le lancement officiel a eu lieu le 28 avril, donc il y a 2 jours, à date de l'enregistrement de cet épisode. Ils ont d'ailleurs fait un live pour présenter un peu le jeu, donc maintenant vous pouvez, plus obligé d'avoir un accès à la bêta, vous pouvez enfin jouer directement en vous rendant sur le site. Je mettrai évidemment le lien dans les notes de l'émission. N'hésitez pas à vous inscrire si vous aimez un peu tout ce qui est jeu de gestion spatiaux, MMO spatial, comme il le présente simplement, que vous avez envie un peu construire des vaisseaux, créer des alliances, conquérir l'univers. Pensez à aller voir, c'est un petit jeu qui se joue sur navigateur et qui est fait par une équipe française et qui est vraiment très sympa. Je recommande.
Et juste très rapidement, c'est un peu dans la trempe de O-Game et de tous ces jeux-là, ou enfin, je ne sais pas si tu connais d'ailleurs. Oui, c'est un peu
oui.
dans le même.
Oui, c'est dans la même veine, mais quand même en beaucoup moins compliqué, beaucoup moins prise de tête, d'accord, je trouve. Même si il faut quand même, voilà, ça reste un jeu de gestion, hein, donc il faut pas se leurrer, il faut quand même réfléchir.
Ouais.
C'est pas du pam pam boum boum. Donc voilà, deux petits retours assez rapides, et je vous recommande d'aller jeter un œil au clip de David Hasselhoff, surtout, ça vaut le coup d'œil, et d'aller jouer à Space Origins si vous avez un petit peu de temps et l'envie d'essayer. Bon,
on va continuer avec les.
Sinon, je ne m'arrête plus. Je vois dans le conducteur les mentions défilées. Je me dis, oulala, quand est-ce que ça va s'arrêter?
Ouais.
J'aime bien
vous. Bah oui, non, mais en plus, tu fais ça bien. Moi, c'est un régal. J'écoute le podcast plus que je n'y participe.
Tu es auditeur,
c'est ça. Exactement. Ouais, mais donc on enchaîne avec les projets du web dont on a envie de vous parler, et c'est donc à nouveau à toi de nous parler d'une web-série.
quelle entrée en matière, merci. Donc oui, plus que de la web-série en elle-même, j'avais envie de vous parler de l'appel à projet qui a été fait par la RTBF. Donc la RTBF, pour ceux qui ne savent pas, c'est la télévision publique en Belgique, c'est un peu l'équivalent de votre France TV, hein, a décidé de, tiens, tout d'un coup, le web est intéressant, on va peut-être s'y lancer, et on va proposer à des créateurs de venir présenter leurs projets, et on va produire de la web-série. Donc en soi, c'est un but assez louable, je trouve, c'est une idée assez intéressante. Donc ils ont fait un appel à projet, que je ne me trompe pas sur les nombres. Voilà. Ils ont reçu 40 projets différents. Donc le but, c'était de faire une web série en format court, un peu humoristique, enfin tendance humoristique. Et donc ils ont reçu 40 projets différents. Ils ont sélectionné 5 projets parmi eux, les 5 qu'ils jugeaient le mieux produit. Hein. Et donc ils leur ont donné à chacun une enveloppe en fait de 10 000 euros, ce qui est quand même déjà pas mal pour tourner le premier épisode. Je crois que dans le cadre, en tout cas, de la web-série, 10 000 euros, c'est déjà un sacré budget. Je connais des web-séries qui se sont lancées avec beaucoup moins que ça. Et donc ensuite, grâce aux 10 000 euros, chacun a produit un petit épisode pilote. Et après, c'est le public qui a voté, simplement. Donc le public s'est rendu sur les différentes plateformes, a regardé les pilotes et a donné son vote à l'un ou l'autre. Donc dans les... Moi, je vais directement donner le gagnant, ce sera plus simple. Le gagnant s'appelle... E, donc E-U-H, 3 petits points, donc comme un E quand on réfléchit, tout simplement. Et donc, c'est l'histoire de Benoît, un mec de 28 ans, qui est toujours célibataire, qui n'a pas de boulot, qui n'a aucun projet en tête, vraiment le clampin lambda, qui est contraint en fait par son ami d'accepter une thérapie de groupe, pour apprendre à savoir ce qu'il veut vraiment dans la vie. Parce qu'en fait, son principal problème... c'est qu'à chaque fois qu'il va se trouver face à une décision, il va, on le voit dans la web-série, hein, on le voit imaginer, il va en mesurer les différentes conséquences, et donc il va simplement jamais prendre de décision, il va jamais réussir à se décider, à se lancer. Et donc c'est un véritable problème dans sa vie, c'est ce qui fait qu'il n'a aucun projet, qu'il n'a pas de copine, pas de boulot, qu'il est... voilà, il n'a rien dans sa vie, simplement. Et donc on découvre dans des petites vidéos assez courtes, parce que c'est pas des épisodes qui durent très longtemps, ça dure 5 minutes je crois, oui, 5 minutes environ par épisode, son quotidien et ce fameux Benoît dans différentes situations et lors de ses séances de thérapie. Donc voilà, moi j'ai regardé pour pas épiloguer longtemps sur les différentes vidéos, mais j'ai regardé les différents projets, et c'est vrai que je dois avouer que c'est celui que j'aurais choisi, donc je suis assez content. C'est vraiment le seul qui m'ait vraiment fait rire, parce que parmi les autres, comment dire, c'était pas folichon. Pour 10 000 euros, il y en a certains, tu te dis, voilà, si vous allez jeter un œil, on sait jamais, hein, je sais pas si on aura un grand public pour ça, mais parmi les différents projets, donc il y a l'Arche de Joey, le 9e mois, le monde de Carla, Rendez-vous insolite. Si vous regardez le rendez-vous de Carla, vous me direz bien ce qu'ils ont fait avec les 10 000 euros. Hein. Franchement, fait là, je le fais avec 200 euros.
Surtout que c'est étonnant parce que effectivement, les premiers sous devraient se ressentir rapidement. En fait, je pense que dès qu'on commence à mettre un petit peu de sous dans ce type de production-là, c'est le cap est énorme au début, en fait. Donc, ça aurait dû se ressentir. Et c'est un concept qui vont réitérer tous les ans, ou c'était un one shot. Non, d'accord.
Non, ils ne le disent pas. À mon avis, ils voulaient voir l'impact que ça allait avoir, si ça allait amener, je suppose, chez eux, un public au niveau de du site, peut-être. Je ne sais pas exactement ce qu'ils cherchent. Ils ne communiquent pas beaucoup là-dessus. À mon avis, c'est plutôt les interactions sociales et les visites de sites. Donc, sûrement qu'ils attendent les chiffres pour décider. Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, la websérie E est en cours de diffusion. Décidément, c'est moi qui fais des E en fait au passage, je me rends compte. J'ai l'impression de me voir comme le héros. Donc ici ils sont à 7 épisodes en fait. Voilà, et il y en a 9 de prévus. Donc c'est en cours de diffusion, effectivement, comme je le disais. Et je ne sais pas du tout s'ils vont réitérer l'exploit. Ça, je demande à voir si ça a eu du succès aussi. Hein. C'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas le nombre de clics, je ne sais pas. Maintenant ici, ce qui est marrant dans le dernier épisode, parce que je la garde, j'essaie de suivre un peu au fur et à mesure quand même, c'est sympa et ça dure 4 minutes, donc c'est pas énorme non plus. Dans le dernier épisode, en fait, le héros est dans une émission, voilà, j'y arriverai, pardon, dans une des émissions phares de la RTBF, justement. Dans l'émission qui s'appelle On n'est pas des pigeons, vous avez un équivalent en France sur France 4, mm-hmm. qui est On n'est plus des pigeons, ouais. Je pense. Et donc, c'est un concept RTBF à la base. Et le héros se retrouve en fait interviewé dans l'émission en question, avec le présentateur et l'intervieweur en question. Donc je trouvais ça assez original de le faire interagir comme ça avec les émissions de la chaîne.
Ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal comme concept. Et surtout d'essayer de développer un peu la web-série en y mettant un peu d'argent, parce que c'est ça aussi. D'habitude, on se dit, ouais, ces créateurs-là, voilà, ils font tout avec rien, donc on a besoin de quasiment rien leur donner. Et là, de pas hésiter à injecter un peu d'argent dans des projets naissants. Ils ont quand même mis, rien qu'au départ, pour les 5 pilotes, il y a quand même eu 50 000 euros de débloqués pour créer 5 petits épisodes et laisser le champ public. Quoi.
Ouais, c'est qu'ils supposent aussi et qu'ils ont, ou qu'ils ont les chiffres quelque part qui disent qu'il y a un intérêt pour eux d'y aller. Donc oui, c'est intéressant et ça veut bien dire quand même que je... Si là, ça concrétise ce qu'il pensait, on continuera à voir ce type d'initiative fleurir un peu partout.
J'espère, en tout cas. J'espère. Ça peut être que bénéfique, je pense, pour les créateurs et pour la websérie. Donc, voilà pour E. Et je vais continuer à faire des E en vous présentant le projet suivant. Qui m'a marqué en tant qu'amateur de bière, ouais, parce qu'il faut le savoir, j'aime bien boire la bière, en bon belge que je suis, même si je ne bois pas que de la bière belge. Et donc, voilà, je fais des E. Le projet suivant dont je voulais vous parler, c'est un projet présenté par Hope Theory, qui est une société américaine, et qui a lancé un Kickstarter pour ce qu'ils appellent les, attention mon accent anglais, Beer Enhancing Sachets. Je pense que ça doit se prononcer à peu près comme ça.
Ouais, c'est à peu près ça, ouais.
En même temps, c'est pas évident quand même. Hein. Donc, en gros, des sachets senteurs, on va dire ça comme ça, pour la bière. Donc, le principe, c'est très simple, c'est... On a tous déjà eu droit à des bières qu'on n'aimait pas spécialement. Surtout nous, amateurs de bière. Il faut avouer, quand t'es dans une soirée ou autre et qu'on te sert une bière assez, on va dire, basique, comme une Corona ou comme... c'est pas quelque chose d'agréable à boire, qu'on aime bien boire des bonnes bières. Et donc, le principe, en fait, de ces sachets-là, c'est que c'est des sachets qui contiennent du houblon et différentes épices, qu'on met simplement dans son verre de bière, un peu comme un sachet de thé, hein, comme une infusion, et qui va, 2-3 minutes, libérer tous ces arômes. Et donc, ça transforme n'importe quelle bière basique, de bas étage, j'ai envie de dire,
en une bière subtilement houblonnée avec différents arômes un peu plus agréables.
Et donc
En tout cas, c'est
l'infusion
l'approche.
se fait à froid dans la bière directement sans problème.
Oui, tout à fait. Enfin,
C'est génial.
tout à fait. C'est le concept, parce que évidemment, c'est pas encore sorti, donc j'ai pas su tester. Je te ferai un retour quand j'aurai reçu
Bon,
mon package.
a priori, ils sont capables de le faire.
Ben, je vois pas. Voilà, je vois pas où. Au final, la bière, ça reste quelque chose quand même de pétillant, donc le fait d'être déjà immergé dans un liquide et en plus qui pétille, donc il crée un peu de mouvement, je pense que les
Oui, c'est
arômes vont
vrai.
se libérer assez facilement. Enfin, je suppose. Je
Donc
suis pas chimiste
tu pourras
assez.
nous faire un retour quand tu as une idée de.
Alors, l'estimation de livraison, c'est pour juillet 2015. Maintenant, les projets de crowdfunding, voilà, j'ai des cas aussi récemment où c'était prévu pour Noël de l'année dernière et où j'ai toujours pas reçu et où c'est prévu actuellement en août 2015. Donc, bon, à voir. Maintenant, c'est prévu pour juillet 2015 et je pense pas que ce soit si difficile que ça à produire, contrairement à certains. Donc, bon espoir. Et donc, qu'est-ce que je veux encore ajouter? Oui, pour le moment, ils ont trois goûts potentiels qui sont annoncés. Donc, il y a un goût Cascade Hope pour ajouter un peu d'amertume acidulée et qui est conseillé avec les bières IPA pour les connaisseurs. Hein. Orange Peel qui ajoute des saveurs d'agrumes et qui s'associe avec les bières qu'on trouve beaucoup en Belgique, qui sont des bières faites à base de houblon de blé. Et les Coriander Seeds qui ajoutent de la douceur et une note de citron, donc plus pour faire peut-être un peu des bières de type Radler, pour ceux qui aiment bien les bières un peu plus légères. Donc je vous mettrai le lien du projet, évidemment, comme d'habitude, et je vous invite à aller jeter un œil pour les amateurs de bières, parce que je trouve ça assez sympathique. Et je me dis qu'effectivement, je pense que c'est le cadre où j'essaierai, quand je suis chez quelqu'un qui a pas une bonne bière, je pense que. Un petit sachet discrètement, ça peut faire l'affaire.
Après, il va falloir effectivement, pardon, il va falloir effectivement le faire relativement discrètement parce que le message qui passe derrière est quand même assez clair de
J'aime pas ta bière.
juste au fait, j'ai apporté mon sachet, est-ce que je peux me permettre de l'utiliser parce que ta bière est vraiment
Mais non,
dégueulasse?
non, au début, j'aurai l'avantage de la nouveauté quand même. La personne qui verra faire ça me dira, ah, tiens, c'est quoi? Et je lui expliquerai, je lui dis, ben voilà, je teste actuellement le sachet. Ce sera peut-être perçu différemment. C'est vrai qu'à terme.
À terme, c'est peut-être plus compliqué, surtout si ça rentre dans dans les habitudes des gens et que les gens finissent par connaître le concept.
C'est moins
Bon,
discret, quoi, disons, voilà.
c'est moins
Alors,
évident.
pour terminer juste avec la présentation, le projet à l'heure actuelle, donc je rappelle, on est le 30 du 4, hein, je vais le dire beaucoup, mais il reste 9 jours, il est financé, hein, ils espéraient 25 000 dollars, ils sont à 26 373 ou 373 pour nos amis français. Donc c'est complètement financé, et ils annoncent que, comme à chaque fois quand il y a des dépassements, différents goûts qui vont s'ajouter, donc par exemple s'ils atteignent 60 000 dollars, ils ajouteront le goût raspberry. S'ils sont à 120 000 pumpkin, donc citrouille, 200 000 double IPA, et ça me plaît, mais je pense pas qu'ils y arriveront, parce que j'adore les bières IPA, et 400 000 le goût pêche. Donc voilà, si vous avez envie d'y contribuer et d'avoir un peu plus de goût, ben n'hésitez pas, allez faire un tour, c'est sur Kickstarter et je vous mettrai le lien. Voilà, je vais reprendre mon souffle, boire une gorgée, et te laisser enchaîner.
Ouais. Ben, on va rester sur Kickstarter, mais en fait, il s'agit d'un projet. Je me suis un peu foiré sur ce coup-là. J'y croyais vraiment quand j'ai vu la news tomber. Je ne sais plus d'ailleurs qui avait relayé cette news, mais j'y ai cru. C'est pas encore fini, hein, il reste 21 jours. Mais il y a une seule personne qui a backé le projet et on est encore à 210 dollars sur 25 000, donc on y est loin quand même. Je suis pas la seule personne ayant backé, hein. D'ailleurs, j'ai pas backé. Donc ça s'appelle, je vous explique quand même le concept, mais je l'ai laissé dans les news juste pour moi, parce que je pensais que c'était important d'en parler, mais je pense que c'est un échec avant l'heure. Ça s'appelle Sampler, Semplerer. Et en fait, donc c'est un type qui s'appelle Laurenc Qureshi qui propose de développer une application. Donc en fait, il aurait besoin de cette somme pour pouvoir développer l'application qui consiste à proposer en fait à n'importe quel utilisateur de créer un code PIN unique qui lui permettrait de en diffusant ce code PIN de connecter instantanément une personne à l'ensemble de enfin via l'ensemble de ses réseaux sociaux. Donc je m'explique autrement. Quand vous lancez l'application, vous connectez vos comptes Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Viadeo, machin, etc., tout ce que vous voulez. Du coup, vous avez l'application à la main sur ces comptes-là et génère un code PIN unique. Et en donnant ce code PIN ou en recevant le code PIN d'une autre personne, instantanément, vous rentrez en contact via l'ensemble des réseaux. Alors, ce qu'il dit, c'est que ça pourrait aller plus loin, ça pourrait être sélectif après. Mais donc, de donner la possibilité, en fait, sans passer par toutes les applications, de renseigner la personne, parce qu'on a un pseudo spécifique sur Twitter, un autre sur Instagram, un autre sur Snapchat, que c'est pas forcément évident. Voilà, passer par cet identifiant unique et instantanément se connecter sur tous les réseaux que l'on souhaite. L'idée me paraissait intéressante. Je suis d'accord, je sais pas si tu as pu regarder, mais la vidéo fait un peu cheap.
Fait peur, surtout pas peur, mais la musique, je trouve, est un peu.
Bah, tout, ouais, enfin, du coup, le projet fait. Ouais, sur le papier, ça me plaisait bien, la réalisation. La vidéo et même la page Kickstarter fait. Ça manque un poil de professionnalisme et donc on se dit que ça sera jamais réellement abouti. Surtout que 25 000 euros pour ça, moi ça me paraît un peu surestimé. C'est dommage, mais quoi qu'il en soit, l'idée est bonne. Donc si quelqu'un veut se lancer dans le développement d'un produit similaire, je pense que de toute manière, vu l'échec. Notre ami Lorenc Koreshi serait ravi de se joindre à un développeur pour poursuivre l'aventure hors Kickstarter.
Ou alors vous faites vous-même votre Kickstarter en le présentant correctement et en mettant mieux en avant les choses, et qui sait.
Exactement.
Vous avez peut-être un public. Mais ce qui me fait rire au-delà de la présentation, qui est un peu pourri, franchement, la vidéo, comme tu dis, cheap et la musique angoissante, c'est le mot que je cherchais.
Ouais.
Ça rebute directement. Ce qui est un peu encore plus bizarre dans ce projet, c'est que tu as différents paliers où tu vois que le mec, déjà, il y croyait, puisqu'il limite à chaque fois, enfin presque à chaque fois, le nombre de backers possible. Limité ouais. à 1400, limité à 1200, limité. Et comme par hasard, le seul backer, c'est sur le plus gros palier. Qui est 100 000 dollars en plus.
C'est papa, maman ou.
voilà, c'est ça. C'est le plus gros palier qui est backé. Enfin, en plus, à 210 dollars, donc deux fois plus que. Quasiment deux fois plus que ce que ce palier, le minimum de ce palier-là. Donc ça inspire pas trop confiance, je trouve. Mais pourquoi pas, c'est une bonne idée. Hein, je pense pas. Non, je me trompe peut-être. Si vous en avez, dites-le nous en commentaire. Mais je pense pas qu'il y ait de services de ce type-là qui unifient les réseaux sociaux, qui permettent de s'abonner à une personne sur tous les réseaux sociaux en même temps. Je ne pense pas que ça existe. Donc ce serait.
En fait, c'est plus. Ouais, c'est ça qui m'a paru étonnant. Un système un peu de carte de visite numérique. À ma connaissance, ça n'existe pas. Et effectivement, l'idée me paraissait quand même intéressante. Donc bon. C'est un échec cuisant, mais l'idée reste bonne.
T'aurais backé et t'aurais pas perdu débit, donc ça.
Oui, non, mais de manière, j'aurais jamais backé avec une vidéo et une page comme ça.
Oui, c'est vrai que là, pour le coup, vous aurez à nouveau le lien dans les notes. Et allez jeter un coup d'œil, vous allez voir, vous direz la musique de la vidéo. Moi, personnellement, ça me rebute directement et ça m'angoisse. Bon, je vais parler moi d'un projet qui est une réussite, pour le coup, par contre, et une fameuse réussite. C'est un projet Ulule qui est le retour de Sentai School. Donc, je ne sais pas si tu as déjà lu ou entendu parler de ces mangas, de ces BD.
Du tout, du tout.
Donc Sentai School, c'est quoi? C'est une petite série en fait de bande dessinée qui avait été créée entre 2003 et 2008, qui parodie. Tout ce qu'on tout un univers geek, on va dire ça au sens large. Donc ça parodie, ça part à la base d'une parodie de des mangas qu'on a connus dans le Club Dorothée, essentiellement, parce que c'est un côté très manga. Et ça s'étend à tout ce qui est super-héros, à tout ce qui est comics américains, un peu de films. Donc c'est une BD qui raconte une vraie histoire, hein. Il y a des personnages avec toute une histoire autour, des personnages un peu barrés qui sont dans une école, donc ils ont pas, sans rappeler le collège foufoufou pour ceux qui ont connu, mais qui, pour avancer l'histoire et la faire évoluer, va piocher allègrement dans énormément de ce qui fait notre culture, de ce qui fait la culture geek, tout simplement. Donc Sentai School c'était sorti donc à l'époque et ça n'avait pas été ressorti en fait depuis de nombreuses années, tout simplement. Ça a été bloqué par leur éditeur à partir de 2009, voilà, j'ai la date. Et donc ils bataillent en fait depuis 2009 pour récupérer les droits de leur création, hein, ce qui est un peu normal, et pour pouvoir les ressortir. Et après une longue bataille de 6 ans, donc pour le coup, ils ont réussi à récupérer les droits. Et peuvent maintenant donc proposer à nouveau leur création et leur série. Et bah, ils l'ont fait via l'intermédiaire d'un crowdfunding, parce que évidemment financer soi-même quand on est auteur, et surtout quand ils ont fait un aussi long combat de plusieurs années, qui à mon avis leur a pas coûté 0€, financer la sortie de 5 tomes et l'impression, c'est quand même pas rien. Donc ils demandaient 17 000 €. Et à l'heure où je vous parle, bah, il reste encore 69 jours de campagne. D'ailleurs, ça m'a étonné parce que 69 jours, je ne me souviens pas avoir déjà vu une campagne de crowdfunding aussi longue.
C'est très très long.
C'est,
hein.
C'est quand même énorme, ouais. Surtout que moi, j'ai déjà vu ça fait 2 semaines, c'est pas plus qu'elle est lancée, mais 2 semaines. Et ils sont à 37 222 €, donc je crois qu'ils n'ont aucun souci à se faire. Je crois que c'est bon, c'est fait, les tomes vont ressortir. Donc, ce qu'ils promettaient à la base, ben, c'est la ressortie des 5 tomes que compose la série. Moi, évidemment, j'ai baqué, hein, parce que je suis grand amateur de BD et que j'ai pas eu l'occasion de les acheter à l'époque. Donc, j'en profiterai pour me faire l'intégrale. D'autant plus que, pour info, le premier palier où on reçoit les 5 tomes de la série, c'est un palier à 40 €. Je trouve que 40 € pour 5 tomes du bande dessinée, c'est vraiment pas cher payé quand on voit le prix actuel dans les magasins. Ça vaut vraiment le coup. Et en plus, on les aide, donc faut pas hésiter. Et alors, comme ils ont largement atteint leur premier palier et qu'ils sont en train d'exploser les scores, ils proposent évidemment, comme tout crowdfunding qui se respecte à l'heure actuelle, des contreparties supplémentaires, hein, ce qui est logique. Donc ils ont déjà dépassé le palier des 110%, qui donnait à chaque tome une page répertoriant toutes les références du tome concerné. Ils ont déjà dépassé le palier des 125%, qui donne 5 couvertures spéciales collector qui seront offertes. Ils ont également passé les 150%, qui permettra de mettre en couleur les 4 premières pages de chacune des BD, un peu à la manière de ce que les mangas proposent. Ils ont passé 175%, qui donne un kit avec différentes choses, un dépliant, une carte d'étudiant de la Santa School, etc. Et les 200%, où ils offrent un livret bonus de 16 à 20 pages. Donc voilà, vous voyez, ils ne sont pas avares du tout. À chaque petit dépassement, toutes les 25%, en fait, ils offrent une nouvelle compensation. La prochaine fois, ils offriront un artbook couleur pour le prochain palier. Ils vont financer aussi, s'ils dépassent les 300%, un épisode 6, totalement inédit. Donc voilà, c'est... Ça promet beaucoup de choses. Et pour les amateurs de BD, franchement, je pense que ça vaut le coup. Amateurs de BD ou de culture geek au sens général, parce que moi qui ai eu l'occasion de lire un peu les scans, parce que comme j'ai dit, j'avais pas su les acheter à l'époque, ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est bourré de références et on voit que les gars sont passionnés et maîtrisent leur sujet et n'hésitent pas, quoi. C'est vraiment très drôle. Donc, merci. Même si je l'avais vu aussi de mon côté, hein, mais je croyais quand même aller faire un petit coucou à Barberousse qui m'a suggéré d'en parler. Donc voilà, merci à lui. Voilà, je ne sais pas si ton côté tu... Est-ce que je t'ai convaincu?
Ben, Alors, bon, enfin, moi, je suis pas tellement BD ou manga ou quoi que ce soit à la base, mais par contre, non. Et puis même, enfin, ça a l'air bien ficelé et même sur, enfin, et surtout dans la gestion de la relation avec leur crowdfunder et leur manière de gérer tout ça, ça a l'air d'être fait intelligemment. Et donc, ça donne envie en fait de participer à l'aventure, ça c'est sûr, de voir ce type de relation là, de bonne maîtrise du
C'est
crowdfunding en
pas
quelque
ton projet
sorte.
avec la musique angoissante et papa maman qui back à 210 heures.
Exactement, on a deux super contre, enfin deux exemples complètement opposés de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire pour réussir une campagne, indépendamment du fond du projet. C'est effectivement essentiel. Je pense même que ça pourrait, on le dit souvent, on le fait jamais, mais ça pourrait être à l'occasion un sujet d'édition spéciale sur justement si on fait un peu abstraction du fond, sur les méthodes de mise en avant de projet, de tout ce qui fait une bonne campagne et une mauvaise campagne de crowdfunding. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui se font, qui ne se font pas. On commence à en voir beaucoup, nous, par le biais notamment des projets du web. Donc ça pourrait être peut-être intéressant à l'occasion qu'on fasse un petit dossier là-dessus aussi.
Ouais, non, effectivement, c'est une bonne idée. C'est à garder, à creuser un jour. Mais pour le coup, chapeau à eux, parce que franchement, depuis que j'ai baqué, je reçois énormément de mails. Et à chaque fois, c'est pour annoncer des bonnes nouvelles, en me disant, ah chouette, je vais avoir ça en plus. Ah chouette, moi qui n'ai jamais eu l'occasion d'avoir leur édition, de recevoir leur bouquin, je vais avoir un poster. Ah, je vais avoir des pages couleurs, ah, je vais avoir un machin, ah, je vais peut-être avoir un artbook, ah, je vais peut-être avoir un tome 6. Enfin, ça crée vraiment
C'est super.
l'envie et c'est vraiment une interaction aux petits oignons, quoi. Franchement, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils approchent tout doucement des 6, ben, ils sont quasiment 650 contributeurs et ils approchent de la centaine de commentaires postés sur leur crowdfunding, quoi. Ça dit bien ce que ça veut dire. Donc voilà, un crowdfunding réussi. Je vais enchaîner avec un peu d'érotisme. On n'a jamais parlé d'érotisme dans les projets du web, je pense. Je ne parle pas de porno, hein, pour le coup. Attention, ça reste quand même très soft. Pas non plus exagéré. Avec une initiative qui est faite par, attention, la prononciation, Jan Heemskerk. Ça va se prononcer comme ça. Qui est un ancien rédacteur en chef de Playboy et de FHM en Hollande, et qui a lancé une plateforme nommée. Alors là, par contre, je vais le faire en français parce que je ne sais pas du tout si ça a une prononciation spécifique ou un sens. GLMRR, qui est une plateforme de crowdfunding qui est dédiée aux photos de charme, simplement. Hein. Donc. Lui présente en disant que, voilà, toujours une belle présentation, mais qu'il a remarqué que les ventes de magazines de charme diminuaient, notamment avec l'arrivée d'Internet, et donc il s'est associé à une actrice néerlandaise, qui fait d'ailleurs la magnifique vidéo promo sur le site, que je vous encourage à aller voir, parce que si vous ne parlez pas néerlandais, vous ne comprendrez absolument rien, vu qu'elle ne l'a fait pas en anglais. Donc une actrice qui s'appelle Victoria Koblenko. Et donc le principe, ben, c'est simplement une plateforme de crowdfunding où. Vous vous inscrivez et vous pouvez ensuite choisir parmi une sélection de jeunes demoiselles qui ont fait des séances photo, choisir celles qui vous plaisent et celles où vous avez envie de mettre votre argent pour recevoir évidemment des contreparties, hein, comme à chaque fois. Donc recevoir soit un tirage photo directement sur votre boîte email en haute qualité, soit recevoir une ou plusieurs photos en fonction des paliers que vous choisissez par la poste. Donc voilà, une initiative somme toute assez intéressante. Hein. Je pense pas que ça avait déjà été fait. Après, je pense pas que c'est le genre de projet que je vais suivre avec attention non plus. Hein. Je trouvais ça marrant d'en parler. Je pense pas. Je ne suis pas amateur spécialement de photographie, encore moins de photographie de nu ou de charme comme ça, donc c'est pas le genre de truc où je vais aller baquer. J'ai d'autres choses où mettre mon argent. Mais si vous aimez, pourquoi pas, si vous aimez les jolies demoiselles, allez faire un petit tour, ça serait peut-être votre bonheur. La seule chose qui me fait rire quand j'étais voir le site, C'est que j'ai parcouru un peu, parce que oui, bon, je me suis inscrit pour tester quand même, hein, conscience professionnelle. J'ai parcouru un peu les différents projets et j'en ai pas trouvé qui avait pour le moment atteint 100%. Ça m'a assez étonné. Tous les projets ont une barre de défilement qui est entre le 5% et le 50%, grosso modo. Même celles qui mettent à la une, en exclusivité sur la page d'accueil, aucune n'est à 100% réellement. Donc je me demande s'ils n'ont pas peut-être un peu des prétentions un peu trop élevées, en se disant c'est quand même des photographes là derrière, donc des gens qui ont besoin d'être traités un peu pour leur travail et qui pensent faire peut-être un travail assez artistique et qui ont l'habitude de plus grosses rémunérations et qui ne sont pas coutumiers du web, je sais pas, mais je me pose quand même la question de la viabilité de la chose. Enfin voilà, si vous...
Bon, après, c'est aussi relativement récent, non
Ça date de... le 16, donc ça fait quand même une quinzaine de jours maintenant.
Oui, mais parce que moi déjà, dans l'absolu, je pense qu'un site de crowdfunding qui se lance indépendamment hein, du segment sur lequel il se lance, là, c'est un peu spécifique, mais il faut quand même déjà acquérir une forme de confiance auprès des personnes qui vont mettre de l'argent dedans, parce que même vis-à-vis de la plateforme, pas que du projet, parce que ça reste un tiers de confiance qui est censé manipuler notre argent et voir aussi s'il y a une communauté suffisante. Donc ça, je pense que ça se fait petit à petit, et au début, c'est normal, je pense, de voir que les gens sont un peu plus frileux. Si ça fait en effet deux semaines, moi, pour moi, ça me paraît pas complètement
ouais.
complètement normal,
c'est vrai, étonnant. Effectivement, ouais. À voir. C'est vrai que les crowdfunding sont assez longs, parce que je vois que la plupart ici durent encore en grande majorité 46 jours, 49 jours. 32 jours, oui, quand même. Donc, oui, c'est assez long, donc peut-être avoir pour l'avenir. Alors, petite précision, parce que je viens de remarquer, je l'ai envoyé dans la chatroom discrètement, il ne faut pas que des femmes, visiblement, il y a un homme maintenant qui est présent sur le site aussi. Bon, mesdames, allez voir, dites-nous si vous êtes convaincus par ce type de physique. je ne sais pas. Je ne suis pas une dame, donc je ne peux pas juger.
Bon, on attend vos retours, on mettra le lien dans les notes.
Voilà, exactement. Bon, je vais te laisser la parole.
Oui. Et on passe sur un sujet un peu différent. Et on passe sur la nourriture et sur la cuisine, plus spécifiquement. Et je vais vous parler de My Cooker, qui s'écrit My M-Y et Cooker C-O-O-C. COOKR, pardon. Et en fait, c'était à l'origine un site qui permettait de commander des petits plats préparés, de les goûter et d'apprendre les recettes qui étaient donc les recettes des plats en question. Mais il vient d'opérer une évolution importante pour devenir en fait un réseau social culinaire collaboratif. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social culinaire collaboratif ? En fait, ça permet de mettre en relation deux types de personnes, sachant qu'une personne peut faire partie de ces deux types-là, les personnes qui ont faim et les personnes qui cuisinent. Les personnes qui ont faim, elles ont une possibilité, c'est de, quand elles arrivent sur la plateforme, c'est de proposer des souhaits culinaires, donc des choses qu'elles souhaiteraient éventuellement déguster. Et les personnes qui cuisinent, elles, ont beaucoup plus d'interactions possibles, puisqu'elles peuvent, d'une part, sur l'aspect purement réseau social, publier en fait leur plat fait maison, avec des partages d'infos, des recettes, des avis, des conseils, et donc interagir avec les autres utilisateurs dans ce sens-là. Mais aussi aller jusqu'à l'organisation d'événements, de repas pour déguster ces plats dans la vie de tous les jours avec d'autres utilisateurs. Donc ça, c'est intéressant. Le réseau social casse un peu les frontières du virtuel, et c'était déjà la vocation à l'origine en fait du site, donc c'est intéressant. donc c'est vraiment récent, j'ai pas la date du lancement, mais il y a déjà plus de 1000 inscrits juste après le lancement. Il y a un truc, alors j'ai pas vraiment compris l'intérêt, mais c'est plutôt cool, c'est qu'il y a la possibilité de créer un avatar quand on s'inscrit sur le site, qui est relativement complet, le système même très complet, il y a des millions de possibilités, mais bon, c'est assez sympa, vous pouvez vous créer un avatar avec des cheveux, avec plein de choses, donc c'est assez cool. Ouais, non, mais ça m'a étonné. Il y avait plein de possibilités. Pour un petit site comme ça, j'ai trouvé la fonctionnalité très très complète. Enfin, il y a dû avoir un énorme travail là-dessus. Je ne sais pas s'ils ont intégré un système déjà développé, mais j'ai trouvé ça. Voilà. Je continue dans les plus du réseau. Le site est vraiment bien fait, j'ai trouvé. Beaucoup de fonctionnalités. Ça fait vraiment un réseau social complet, ça fait pas site à moitié fini. Il y a beaucoup de choses. Je vous ai présenté les trois grands onglets si vous voulez, mais je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a plein de choses. Le design est relativement beau. Par contre, évidemment, et c'est forcément ce que je reprocherais au site, mais ils n'y peuvent rien. Il ne tient qu'à vous de changer ça, c'est qu'il y a relativement peu d'utilisateurs. Et que tout l'intérêt de ce réseau social, enfin d'un réseau social en règle générale, et encore plus quand il est assez local, parce que encore une fois c'est très local si on veut organiser des événements, voir ce qui se passe autour de chez nous, il y a un seuil critique d'utilisateurs à atteindre, et ils ne l'ont pas atteint à mon sens aujourd'hui pour que ce soit suffisamment intéressant. Donc c'est pour ça que j'en parle en fait, c'est surtout parce que je pense que ça peut être très intéressant, il y a un fort potentiel, ça a été très bien fait. C'est totalement gratuit, donc profitez-en, inscrivez-vous et allez voir ce que ça donne parce que c'est vraiment sympa. C'est du beau travail et c'est je crois 5 Français qui sont derrière ou quelque chose comme ça. Je dis peut-être une bêtise, mais oui c'est ça, c'est 5 Français qui viennent de la région de Nantes.
Non, ça a l'air marrant. Je suis en train de jouer avec les avatars justement quand tu m'as parlé des cheveux.
Oui, je sais pas pourquoi j'ai parlé des. C'est peut-être parce que j'en ai plus beaucoup que je parle des cheveux, mais donc voilà, non, mais ouais, c'est intéressant.
Ça a l'air assez complet. Pour une fois, il y a la Belgique qui est mise dedans, et j'ai une personne qui est sur ce réseau social qui est pas loin de chez moi. C'est assez étonnant. Parce que d'habitude, ce genre de produit fait par des Français, la Belgique est un peu oubliée par chez vous. Un peu mise à l'écart, donc là pour le coup, la personne n'a rien publié, hein, elle est juste inscrite, aucun centre d'intérêt, aucune description, aucun avatar, zéro cook, hein, mais au moins il y a une personne.
Bon, c'est intéressant et donc ça prouve qu'il y a éventuellement un potentiel, mais qu'il faut le concrétiser.
Mais il y en a un, surtout, moi j'imagine bien la variante, la possibilité que tu as abordée d'organiser des repas. J'adore l'idée en fait de trouver des personnes. Bon, évidemment, pour le coup, là pour le moment, je peux en trouver beaucoup dans ma région. Mais trouver des personnes de ta région et proposer un repas un peu improvisé où tu cuisines et où tu proposes d'essayer des recettes chez toi, je trouvais ça original. Ça permettrait de rencontrer un peu du monde. J'aime bien.
Ouais, bah tu verras, c'est une fonctionnalité qui est pas mal mise en avant hein, sur le site. Donc c'est. Non, c'est un beau produit. J'espère que les gars vont arriver à. Faire la pub qu'il faut pour le faire connaître, et donc on essaye on essaye de les aider dans ce sens-là parce que c'est pas mal ce qu'ils ont fait.
Je vais essayer de mettre voilà. Là-dessus, on va voir, je vais publier mes recettes, on va voir ce que ça donne.
Super,
bon,
j'en ai au moins convaincu.
Oui, voilà, t'as trouvé un potentiel utilisateur. On va embrayer directement parce que avec le. Donc, comme on vous l'a dit, il n'y a pas de mise en évidence ce soir. Hein. Mm-hmm. On va parler. Enfin, tu vas parler pour le coup, je vais te laisser la parole. Ça va être un peu à ton tour d'enchaîner. De ton aventure dans la création d'un projet. Un projet web, hein, puisque c'est quand même le thème de l'émission. Hein, donc, je vais te laisser présenter l'aventure Please Do. C'est comme ça qu'on doit dire.
Exactement, c'est comme ça qu'on doit dire.
Vas-y, je t'écoute.
Alors, donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement il y a quelques semaines, voire maintenant bientôt un mois? Ça fait un certain nombre d'années quand même que me trotte dans la tête l'idée de voir si je suis capable de produire une application de A à Z allant de la conception technique à tout ce que ça implique au niveau de du design, du code, etc. Jusqu'à la publication, jusqu'à voilà un certain nombre de choses, le marketing qui va autour, etc. Et par manque de temps, j'avais jamais concrétisé la chose. Et il s'est avéré que je pensais avoir plus de temps que ce que j'ai eu finalement, mais il y a un mois, j'ai eu une période où je me suis lancé. Et c'était motivé par une idée qui est relativement simple, qui n'a pas forcément vocation, même qui a priori n'a pas du tout vocation à me faire gagner de l'argent, mais c'est une idée d'application mobile. Et donc pour vous expliquer le concept assez facilement, c'est un principe d'échange de services entre amis, famille et autres, où la contrepartie ne serait pas de l'argent, mais où on pourrait envisager une économie alternative basée sur l'échange de merci. Donc je te propose d'aller nettoyer ta voiture, par exemple. En contrepartie, je t'offre 20 merci. Ces 20 merci seront crédités sur ton compte une fois que tu auras fait, que tu m'auras envoyé la preuve que tu as effectivement fait l'activité. Et avec ces merci-là, tu pourras évidemment demander à moi ou à d'autres de tes amis un certain nombre d'activités. Donc l'échange de bons procédés, en fait, c'est vraiment le principe même du système et faire abstraction en fait d'argent. Après, il y a évidemment tout un côté un peu plus gamifié qui consiste à voir en fait dans ton entourage proche d'amis qui fait le plus de choses, qui demande le plus de choses, qui a le plus de merci, qui est le plus serviable, etc. Et donc tout est basé sur ce système d'échange de bons procédés. Donc ça, c'était le concept en soi. Rien de révolutionnaire, mais quelque chose d'assez flexible qui peut être utilisé par n'importe qui dans n'importe quel contexte et qui techniquement a priori était réalisable, du moins avec mes compétences qui étaient très faibles, puisque je ne savais pas développer vraiment. Et donc, alors juste la présentation que je vous en fais, c'est une présentation c'est absolument pas marketé et c'est pas pour vous vendre le produit, c'est plutôt pour vous vendre l'aventure et les différentes étapes de la production de l'appli. Donc la première étape, évidemment, ça a été de monter en compétence d'abord sur les sujets techniques et de voir ce que ça impliquait de devoir non seulement développer une appli, mais une appli qui allait devoir s'interfacer avec une base de données, qui allait devoir gérer des comptes utilisateurs, qui allait devoir donc avoir un serveur qui allait devoir pouvoir gérer des API type Facebook et autres. Ça, moi, ça me paraissait relativement flou, voire très complexe avant de commencer. Et donc je me suis lancé en fait dans énormément de lectures. Il y a d'ailleurs quelques sites en fait que je voudrais recommander. Alors pour ce qui est, parce que je développe en l'occurrence en un langage qui s'appelle Swift, je pense que tu en as entendu parler, qui est l'évolution de l'objectif C.
C'est le site du zéro, Open Classroom, non, c'est pas ça?
Alors, Open Classroom, évidemment, fait partie des sites qui sont... en fait, il y en a plein dans cette trempe-là hein, de sites. Il y a Treehouse, il y a Open Classroom, il y a plein de sites avec des MOOC qui permettent de suivre le cours très bien. Après, un que je connaissais pas avant de me lancer dans l'aventure et au final sur lequel je suis retombé très très souvent, c'est, alors je vais mal le prononcer, je pense, rewenderlich.com. qui est un blog sur le développement iOS. Et il y a plein de tutos, plein de petits articles qui sont très très intéressants et sur des aspects design, sur des aspects, il y a beaucoup de choses. Donc ça, je vous conseille si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure. Ce site-là, en l'occurrence, c'est bien. Il y a plein de blogs comme ça qui ressemblent un peu à ça, où en fait, vous finissez par toujours trouver vos infos. Et en fait, c'est ça qui m'a le plus impressionné en fait dans cette démarche, c'est que en me lançant, donc j'ai fait des choix techniques qui sont, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais qui sont par exemple d'utiliser un service donc en back-end, enfin donc à l'arrière, qui est en fait complètement hébergé et géré par, alors c'est le mal hein, parce que c'est Facebook qui gère ça, qui s'appelle, donc c'est un service qui s'appelle Parse, qui propose un back-end applicatif très très simple d'utilisation et qui est relativement bien documenté. Donc j'utilise ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans toute cette démarche-là, c'est que ne connaissant rien, je vais de blocage en blocage en fait dans le développement de l'application. Et donc systématiquement, le réflexe, c'est d'abord c'est Google, c'est d'aller chercher. Et dans 80% des cas, les solutions se trouvent sur Internet. Et donc, je pense que quelqu'un qui ne sait pas développer, par définition, pourra toujours trouver ses réponses. Et ça m'est arrivé d'être sur des éléments très, très spécifiques où je n'avais pas les réponses qui étaient vraiment celles face aux problèmes auxquels je me confrontais. Et dans ces cas-là, de manière très impressionnante, la plateforme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui s'appelle, alors, du coup je suis en train de perdre le nom, mais qui s'appelle Open Classroom, je suis en train de mélanger, c'est Stack Overflow exactement. Oui, c'est absolument exceptionnel pour en termes d'échange de d'informations, de vous posez n'importe quel type de question relatif au c'est assez tech, principalement sur des langages de développement, et vous posez même des éléments de code et vous avez absolument une communauté monstrueuse qui vous répond instantanément. Et donc ça, j'ai été agréablement surpris, au même titre que poser une question très simple sur Twitter et avoir un certain nombre de réponses assez, assez rapidement. Et donc en fait, mon constat, c'est de dire, pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin de... le processus d'apprentissage, il se fait presque en développant et en se lançant, plutôt que de véritablement suivre un processus d'apprentissage classique et d'attendre d'être extrêmement compétent et de maîtriser tout, parce qu'en fait on pense que le sujet est trop vaste pour aborder une démarche d'apprentissage classique. Il vaut mieux justement avoir là comme c'était mon cas une idée, un concept qui est potentiellement atteignable, pas trop complexe non plus, et se lancer et en fait se confronter systématiquement à des problématiques et répondre à ces problématiques. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, on gagne beaucoup plus en compétences en faisant cette démarche-là. Donc, il y a tous les outils nécessaires sur Internet pour complètement s'en sortir. C'est le cas pour le développement, c'est le cas pour le design, c'est le cas pour énormément de choses. Alors, après, deuxième constat que j'ai fait, c'est le temps que ça demande. Je pense que j'avais sous-estimé le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble de ces tâches-là, d'autant plus que c'est un peu une poupée russe, ou enfin, je sais pas si l'image est forcément explicite, mais vous amorcez une tâche et en fait, il y en a 40 qui arrivent en dessous. Vous avez une idée aussi simple que celle que je viens de présenter, et en fait, quand vous réalisez derrière, quand vous commencez à poser sur le papier les différents processus que vous allez autoriser auprès de vos utilisateurs, tout ce dont vous avez besoin, comment vous allez gérer les systèmes de notification, de plein de choses, En fait, c'est quand même un travail relativement conséquent. Donc, faut s'attendre quand même à avoir pas mal de choses à faire. Et surtout, si comme moi, vous avez l'intention de voir si vous pouvez le faire tout seul, bout en bout, il faut bien avoir en tête que ça va prendre énormément de temps et qu'il va falloir le faire petit à petit, qu'il va falloir évoluer, qu'il va falloir peut-être faire des concessions sur un certain nombre de choses. Et donc cette deuxième partie-là, en fait, est à mon avis essentielle, c'est que si les informations sont présentes sur Internet, si vous n'avez pas de problème spécifique, à mon avis, à monter en compétence sur le sujet, la seule chose qu'il faut, c'est avoir beaucoup de temps à disposition pour pouvoir suivre l'avancement, pour pouvoir constamment, en fait, ne jamais lâcher la chose et continuer à développer. Ensuite, la troisième chose dont je voulais parler, c'était mon retour d'expérience plutôt spécifique monde Apple. Alors, en soi, c'est un retour d'expérience très positif. Globalement, leurs outils de développement, leur documentation, leur manière de gérer justement ces choses-là sont vraiment bien faites. Tout ce qui est en fait contenu global. Par contre, dans l'interaction avec les développeurs, donc les tout petits développeurs comme moi qui représentent rien, et leur manière de gérer l'acceptation sur l'App Store, c'est un parcours du combattant absolument infernal. On en parlait un peu avant l'émission. Apparemment, toi, tu es déjà passé aussi par ce chemin-là et qui est un chemin très compliqué. J'expliquerai après moi ce qui m'est arrivé.
Moi, j'ai jamais réussi. C'est simple, j'ai jamais réussi en fait. Apple n'a jamais... Google, donc Android et Windows Phone, aucun problème. Apple, j'ai jamais réussi. Bon, maintenant, je ne vais pas non plus pousser le vice comme toi jusqu'à programmer. Je m'étais servi d'un outil web. Donc, il faudrait que je retrouve le nom.
C'est pas Kawet ou...
Non, c'est pas ce nom-là. C'est notre proche, mais c'est pas ce nom-là. Mais qui permet, à partir d'un flux RSS, de générer simplement une appli qui publie les news récentes. Un truc très simple, hein, mais... Donc, à mon avis, un peu perfectible, mais voilà, Google et Windows, il n'y avait pas eu de problème, Apple n'a jamais voulu.
Donc, je te souviens. Bon, alors, pour faire simple, j'avais soumis. Alors, en fait, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, ça a été de soumettre, et ça, c'était très facile et très bien fait. Ils ont un outil qui s'appelle Test Flight qui permet de faire des bêtas auprès d'utilisateurs spécifiques. Donc ça, la bêta de mon application est déjà disponible. D'ailleurs, si vous voulez la tester, vous n'hésitez pas à envoyer un mail à notre adresse mail ou à m'envoyer un message sur Twitter ou sur Atelier Projet du Web aussi. Je pourrais vous inscrire à la bêta pour que vous commenciez à la tester. C'est pour le moment disponible que sur iOS. Donc ça, ce process-là, très, très rapide, l'acceptation a pris 2 jours. Mais il y a déjà un processus d'acceptation, rien que pour que ce soit en bêta fermée. Par contre, donc j'ai envoyé il y a un peu plus d'une semaine l'application pour validation App Store. J'ai eu le droit à un retour 8 jours plus tard, 9 jours plus tard, m'expliquant que la condition 14.3 n'était pas respectée et que par conséquent l'application ne pouvait pas être présente dans l'App Store en l'état. Donc dans l'ensemble, je m'en suis relativement bien sorti, hein, parce que, alors déjà, c'était une erreur de ma part, c'est qu'effectivement j'avais oublié un élément spécifique qui implique que lorsqu'on manipule des données ou qu'on propose à nos utilisateurs de générer de la donnée, il faut systématiquement qu'en face, les utilisateurs qui sont amenés à recevoir cette donnée puissent signaler le contenu inapproprié, chose que je n'avais pas intégré. Donc en soi, globalement, les retours sont positifs, mais du coup, ça m'a permis de me rendre compte et de discuter avec pas mal de gens sur Internet et de me rendre compte que c'est arrivé plein de fois qu'Apple dise simplement non et pas seulement non, revoyez votre copie, mais non, ça ne sera jamais disponible dans l'App Store. et globalement, leurs retours sont vraiment succincts et avec une interaction très limitée. Vous avez moyen de renvoyer un mail par un message, d'initier une forme de discussion avec le développeur qui vous a rejeté l'application pour avoir plus de détails, sachant que le nombre de messages est limité et que s'il vous répond, vous avez de la chance. Donc globalement, le retour d'expérience sur cette partie-là est vraiment mitigé. C'est pas la partie la plus drôle et si j'ai été agréablement surpris de justement des relations qu'on pouvait avoir en règle générale pendant tout le processus avec d'autres développeurs, avec plein de gens, les relations avec Apple dans la phase de validation par contre ne sont pas très agréables. Voilà. Et puis il y a des choses, ça m'a permis de voir des choses quand même assez rigolotes. Il y a notamment, je sais pas si tu as déjà lu les conditions d'Apple justement d'acceptation des applications.
Le truc que tu dis jamais.
Bah, du coup, j'ai été obligé de les lire pour voir si en fait mon application, avant de la resoumettre, correspondait bien à l'ensemble des points, puisque en l'occurrence le point 14.3, je l'avais pas lu. Et il y a notamment un point
14.3, ça veut tout dire.
Il y a notamment un point, alors je me souviens plus du numéro, mais je pense que ça intéressera de manière pas nos auditeurs le numéro, qui est assez drôle, qui dit à peu de choses près, alors je l'ai plus sous les yeux, mais à peu de choses près, il dit qu'en fait toute application qui est trop similaire à un ensemble d'applications déjà bien trop présentes dans l'App Store pourra être refusé, et principalement s'il s'agit d'applications coussin péteur ou de position du Kama Sutra. Et c'est écrit texto là, comme ça.
C'est ce que j'allais dire, en même temps, il y a tellement d'applications coussin péteur, j'allais justement le dire, en plus faire la blague. Il y a tellement d'applications coussin péteur que c'est une hérésie de dire ça, mais visiblement, ils ont compris.
Voilà, du coup, je me suis tapé de lire l'ensemble des conditions d'acceptation sur l'App Store. Je peux vous dire que c'est joyeux. Et donc voilà. Globalement, retour d'expérience sur l'ensemble. En fait, j'ai été vraiment agréablement surpris. L'histoire ne fait que commencer. Hein. On va voir où ça m'amène. Mais c'est ce sentiment de pouvoir compter en fait sur je connais Internet depuis un bout de temps et notre activité là en ce moment même autour du podcast en est un bon exemple. C'est qu'on n'est pas obligé de se connaître dans la vraie vie, qu'on peut rentrer en contact avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, etc. facilement. Mais là, c'est tout nouveau pour moi. Le côté, peut-être je me suis encore plus enfoncé dans la geekerie par cette envie de développer une application et de voir jusqu'où je pouvais aller. Et je me suis rendu compte que l'entraide était presque encore plus présente dans ce domaine-là. Et vraiment, c'est vraiment agréable de savoir qu'on peut compter autant sur une communauté qui passe du temps à s'aider et à s'échanger des tips. Toi, je pense que de formation, tu es peut-être plus dans ce milieu-là, donc tu as dû peut-être plus connaître.
Non, pas vraiment.
Ah, d'accord. Je pensais
que c'est une illusion qu'on se fait parce que voilà, mais non.
D'accord.
Je suis pas du tout. J'ai une formation pour te situer très technique, terre à terre, d'informaticien. Le mec qui vient chez toi avec. Enfin, qui venait, parce que je trouve que ça fait de moins en moins chez toi avec le tournevis. Okay. Le PC va pas, je l'ouvre, je change le disque dur, j'en mets un nouveau.
D'accord, donc on n'est pas sur de l'ingénierie du dev.
Non, c'est moi qui me suis réorienté par la suite.
Ok. Mais. Non, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Et puis ça va vite, finalement, d'apprendre. Ce qui est drôle, c'est qu'en termes de temps passé, je pense que j'ai passé presque autant de temps à développer réellement l'application, à la designer et autres, qu'à m'embêter avec les conditions générales d'acceptation sur l'App Store.
Ou qu'à poser des questions à la communauté.
Oui, mais ça, à la limite, je compte dans le temps de développement. Mais en fait, j'ai trouvé ça relativement moins complexe, en tout cas. Peut-être qu'en termes de temps, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais c'était relativement moins complexe de gérer ça que de gérer la partie administrative qu'il y a derrière sur la mise en ligne d'une application et tout ce que ça implique, parce qu'il demande énormément de choses quand même. Et donc cette partie-là était un peu plus embêtante finalement. Donc voilà, vous pouvez, alors je crois que, bon, faudrait que je le remette, vous pouvez aussi aller sur plizdoo.com, donc plizdoo.com,
le site
est en ligne, mais je crois que maintenant il y avait un bouton vers l'App Store qui autrefois était un bouton vers l'inscription pour la bêta, et je vais remettre un bouton pour l'inscription sur la bêta vu que l'App Store n'a pas encore été accepté. Et du coup, si vous voulez la tester, ça serait pas mal. Ça me permet d'avoir des retours et de faire évoluer l'application au fur et à mesure. D'ailleurs, s'il y a des développeurs, soit JavaScript pour Parse, soit Android, qui nous écoutent, ou même des designers, n'hésitez pas à me contacter via les projets web, parce que ça pourrait m'intéresser éventuellement.
Et justement, tu m'as amené une question que j'avais envie de poser. Tu viens de partiellement répondre puisque tu viens de parler d'Android. Mais en gros, ton projet, ton envie finale avec cette idée, si tu pouvais l'apporter à son paroxysme, si tu avais un budget, voilà, un business angel qui vient, qui dit je t'offre 20 millions, tu fais ce que tu veux avec ça, ce serait quoi? Tu veux aller où en fait? Un business model.
Il y a tout ça. Sachant que, évidemment, ça fait partie des types d'applications qui n'ont d'intérêt et qui sont viables au niveau d'un business model qu'à partir du moment où il y a une communauté relativement importante. Le mot d'ordre, en tout cas moi, quand j'ai pensé le business model, c'est évidemment ne jamais lier directement à une quelconque forme d'argent le principe d'échange de services. Donc, alors publicité, je le pour des raisons intimes, je le proscris. je voudrais jamais mettre de publicité dans l'application. Rendre l'application payante, c'est absolument hors de question aussi. Ça on perd tout l'intérêt. L'achat in-app de merci, de points permettant de demander des choses à son entourage, c'est aussi à proscrire parce que si on perd l'intérêt d'échange de services. Donc, j'ai dû me creuser un peu la tête et en fait, l'idée serait éventuellement, mais donc c'est à partir du moment où j'ai atteint un nombre critique d'utilisateurs, de pouvoir proposer, en fait, via les commerces et donc via l'achat de petites choses supplémentaires dans les commerces ou l'achat d'éléments spécifiques dans les commerces. Le fait de distribuer des merci en contrepartie. Typiquement, si vous prenez un café à la fin de votre addition au restaurant du coin, le fait qu'il ait la capacité de vous délivrer des merci en contrepartie, donc lui, ça ne lui implique rien. Vous, ça vous incite à prendre un café. Et moi, sur le fait que j'ai incité la personne à prendre un café grâce à mon application, je récupère quelques centimes sur l'achat du café ou sur le menu Maxi Best of Big Mac du McDo plutôt que le menu Big Mac, par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça, à terme, ce serait ce type de business model-là qui pourrait être intéressant. Ou par exemple, faire part des institutions des requêtes impliquant des merci. Par exemple, je pense à ça parce qu'on avait parlé d'un projet qui parle des bibliothèques, mais typiquement si la bibliothèque de je ne sais où veut faire un peu de pub pour inciter les gens à venir chez eux, et donc veut proposer en échange de quelques merci à des utilisateurs situés autour de, enfin dans la région de Paris par exemple, elle peut envoyer un please do automatiquement à tous les gens dans la région de Paris. S'ils le font, du coup, s'ils viennent à la bibliothèque, recevront X merci. Mais du coup, il n'y a pas d'échange financier direct et ça n'impliquerait pas une modification de l'économie, entre guillemets, qui s'instaurait. Parce que toute l'idée, c'est vraiment de rester dans l'échange de bons procédés. Et donc là, moi, je l'utilise avec mon entourage qui utilise la bêta depuis maintenant 3 semaines, enfin 2-3 semaines. En fait, les cas d'usage sont vraiment variés. Il y en a beaucoup. Ça dépend du contexte dans lequel on se situe, dans des contextes de colocation, de famille, de pendant les vacances, pendant plein de choses. C'est assez sympa en fait de se challenger sur des demandes de services, de voir qui fait plus des choses que d'autres. Et en fait de faire un peu à sa sauce l'utilisation du système. Et en fait, ça m'a beaucoup amusé de regarder un peu déjà les typologies de please do qui s'échangeaient sur la plateforme, parce que c'est en fait les utilisateurs pensaient à plein de choses auxquelles j'aurais jamais pensé. Donc ça c'est les premiers retours que j'ai trouvé intéressants. Et donc à terme, enfin voilà, ça c'est l'évolution ultime. S'il y a beaucoup d'utilisateurs, faire ce système de financement là, et évidemment pour y arriver, avoir une version disponible sur Android assez rapidement, ça pourrait être intéressant. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'ailleurs Parse pour le développement. C'est qu'il y a une grosse partie, quasiment toute la partie de l'intelligence de l'application qui est côté serveur. Et du coup, en soi, le développement sur Android pourrait être fait très rapidement. Donc voilà, globalement, pas si j'ai répondu à ta question.
Si, tout à fait, j'ai ce qu'il me fallait.
Donc bon, n'hésitez pas à vous inscrire par n'importe quel moyen, soit sur le site, soit en m'envoyant un message sur Twitter ou n'importe quoi. N'hésitez pas à en parler. Je peux, pour le moment, c'est en bêta, donc c'est un peu, le processus d'installation est un peu embêtant. Il faut passer par test flight, mais bon, c'est tout à fait faisable pour n'importe qui. Et ça me permet moi de faire évoluer assez rapidement en fait l'application sans passer par l'App Store pour le moment, et de comme ça quand je publierai dans l'App Store, j'aurai une version beaucoup plus stable, beaucoup plus aboutie, et ça serait pas plus mal à mon avis. Voilà, j'ai duré énormément de temps, décompensé tout.
Non, mais c'était l'objectif de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Puis je crois que l'aventure est assez, assez intéressante, hein, de voir que nous-mêmes, nous créons des projets web ou nous en utilisons. D'ailleurs, on avait parlé de ça, il faudrait d'ailleurs qu'on le fasse, on l'avait déjà mentionné, mais un épisode qui parle des projets, ouais, qu'on utilise nous pour faire les projets du web. Je pense que ça peut avoir son intérêt aussi. Donc bref, c'est une petite aparté. Mais ça m'y a fait penser. Bon, ben donc, please do, donc PLIZDOO. Hein, donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à suivre l'actualité. Et si vous avez envie de participer, bah, contactez Mathieu. On vous dira où sur la fin de l'épisode. Alors, avant de terminer l'épisode, justement, et d'indiquer où on peut nous retrouver, j'avais envie de parler un petit peu. Je vais faire ça assez vite. Pas trop débordé sur le timing, hein, même si on a déjà explosé, de l'évolution future des projets du web. Puisque, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission, j'ai pour le moment une période sans emploi fixe. Hein, je suis SEF au lieu de SDF, hein, sans emploi fixe. Et donc, je vais avoir un peu plus de temps à consacrer à mes différents projets. Et j'ai d'ailleurs envie par la suite de prolonger l'expérience professionnelle dans le web, donc ça ne peut être que porteur pour moi. Et donc je vais tenter, avec bien entendu le concours de Mathieu et d'autres certainement s'ils le veulent, de porter les projets du web en version écrite, en version, j'allais dire blog, mais en version site internet simplement. Faire des projets du web, étendre un petit peu. Voilà, le concept est faire des projets du web, un vrai site internet tant d'actualité que peut-être d'analyse, d'articles plus fouillés, que sais-je. On a pas mal d'idées qui nous sont venues et qui doivent encore être travaillées. Mais voilà, j'ai envie un peu de vous l'annoncer. Donc, très bientôt, l'URL où vous pouvez d'ailleurs nous retrouver, lesprojetsduweb.net, n'aboutira plus directement sur la page PodCloud, bien que nous la conserverons parce que nos amis de PodCloud, ils sont quand même trop forts, mais aboutira sur un site web entièrement dédié où seront postées les différentes actualités des projets du web. On pourra comme ça publier des news ou revenir sur des actualités qu'on n'a peut-être pas le temps d'aborder en podcast notamment, ou aborder sous un angle différent, plus quotidien. À voir, voilà, ça va évoluer en tout cas. Et cette évolution amènera certainement aussi des évolutions futures dans le podcast auxquelles on réfléchit pour l'instant. Donc, c'est des discussions qui se font en interne, donc je n'ai pas encore de grands changements, de grands chamboulements à vous dévoiler tout de suite. On vous tiendra de toute façon informé, on vous demandera bien entendu votre avis. Ça, c'est quand même une des choses les plus importantes, donc on va vous soumettre les différentes possibilités de changement et vous demander ce que vous pensez des différentes formes proposées quand nous aurons arrêté nos décisions. Mais voilà, vous serez tenus informés, donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner via les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, peu importe. Enfin, surtout Twitter d'ailleurs, parce que c'est surtout là qu'on publie l'actualité des projets du web, pour être tenu informé des évolutions. Donc, dans un premier temps, le site rédactionnel qui arrivera, et ensuite, le futur éventuel du podcast et de là ou des émissions, les projets du web. Voilà, petit teasing comme ça, j'ai pas encore.
C'est bien, trop ça dévoilé, donne juste juste ce qu'il faut pour donner envie. Bruit, c'est pas.
Aux gens de nous suivre, voilà. Et donc, si vous voulez évidemment vous abonner et nous suivre, ben, c'est très simple. Le plus facile à faire, c'est twitter.com/ à nouveau les projets du web en un mot. On n'a pas choisi le
mot. Mais le plus explicite, oui.
Je crois que ça, tout le monde. Voilà, et tout le monde sait l'écrire, donc c'est assez facile. Donc, les projets, et avec un sa projet évidemment du web. Et pour le moment, les projets du web.net sur lequel vous aboutirez sur la page PodCloud, vous pourrez trouver tous les liens pour vous abonner via PodCloud, via iTunes, via Flux RSS, via votre application. Voilà, tout ce qu'il vous faut pour suivre le podcast. On va conclure donc ici avec la petite mention comme promis d'où on peut nous retrouver. Donc, Mathieu, où peut-on te suivre sur. Suivre tes aventures.
Alors, pour me suivre moi directement, ça n'a pas changé. C'est toujours Mathieu avec 2TH TNSC. Ça, c'est @MathieuTNSC. C'est mon Twitter perso. Vous pouvez me suivre. Et après, vous pouvez évidemment désormais suivre @PleaseDo pour l'actualité vraiment exclusive de PleaseDo. Donc voilà, globalement c'est sur ces deux biais là et donc les projets du web.net aussi qui est évidemment un endroit où on peut me retrouver, voilà.
Et alors moi sur Twitter c'est NotKirby tout simplement, N-O-T-K-I-R-B-Y. Et petit coup de pub parce que je n'ai pas encore trop fait jusqu'à présent. Si vous voulez un peu plus de mon actualité ou de mes posts plus personnels ou sur mes envies, mes passions, kirbyland.net, c'est l'endroit où vous. Enfin, c'est mon petit blog, c'est l'endroit où vous pouvez retrouver toutes mes publications un peu plus perso. Voilà, après cette longue émission, on vous remercie de nous écouter toujours plus nombreux. On vous remercie les gens qui commentent et on vous encourage à le faire également. Et on vous dit, si tout se déroule bien, à dans 2 semaines pour la prochaine émission. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous.
Salut à tous.